Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix de Monaco. Un rouge, un pair et manque, c'est ce qu'il fallait jouer ce dimanche sur la roulette monégasque, car oui, comme s'il n'y avait pas que le talent, la chance aussi a choisi le camp de Vettel. Pour m'accompagner ce soir, comme d'habitude, et grande nouvelle, il a récupéré sa console, mais pas le contenu de son disque dur. Bonjour Dino.
Bonjour.
Parce qu'on en avait parlé, donc je me suis dit, voilà, faut que les gens apprennent la suite.
Voilà,
donc...
faut clore cette histoire, parce qu'il y a trop de gens qui attendent.
Et du coup, il va arrêter de bosser.
Ah mais qu'est-ce que tu fais là, Antoine? Non, t'es revenu, c'est pas possible. Oh non, je vais être obligé de garder ces vannes toutes pourries. Ah
non.
Alors, cette course. J'ai envie de dire, en règle générale, à Monaco, c'est tout ou rien. Pour une fois, ça n'a pas été rien.
Bah, petite information, pour le moment, le site clipdiapex.com, qui me sert de base moi, pour compter les dépassements, a répertorié ce week-end 29 dépassements. C'est-à-dire, c'est le record ex-aequo avec le Grand Prix de Monaco 93 depuis 1982. Donc voilà, c'est le meilleur.
Donc en fait, c'est un chiffre qui paraît pas terrible, mais en fait qui est énorme pour Monaco. Rien d'autre à dire ? Non, je prépare en général 30 minutes les derniers temps.
On sent que Shinji en ce moment, t'es en début d'émission, tu as peur.
Ouais.
En même temps, il y a de quoi.
Non, cette semaine, nous n'avons rien à dire, Shinji. C'était d'ailleurs très bien, puisqu'il n'y avait pas le DRS cette semaine, donc c'était très bien.
Ah oui, alors c'est vrai que au coup, on a eu peur pour le DRS, c'est bien, il n'y a pas eu de problème, puisque on ne l'a pas vu.
Si, quand t'as mis sur Maldonado.
Non, il a même pas le DRS à ce moment-là.
Non,
parce que c'est dans les deux tours après la sortie de la safety car. Donc il y a pas le DRS.
Dans les deux cas, on avait dit que ça enverrait quelqu'un droit dans le mur. Quoi.
Bah ouais.
Ouais, voilà.
Non, mais il a pas besoin de DRS pour ça.
Non, le seul truc où le DRS lui a servi finalement, c'est pour dépasser Schumacher en début de course.
Oui.
Après, il y a eu un ou deux autres dépassements avec le DRS, mais bon, en dehors de ça, tu me diras.
Alonso l'a utilisé avant pour faire peur à Vettel.
Oui.
Il a tenté.
T'as peur, hein.
Dit. En même temps, Alonso, il a quand même dit, moi, je m'en fous, ça passe ou ça casse, j'ai rien à perdre.
Bah oui. Ah.
Bon, Vettel non plus n'avait pas grand chose à perdre, mais.
Allez, on va passer à l'éphéméride, dans ce cas.
Oh, attends, je suis pas habitué parce que là, c'est trop tôt.
Bah ouais, t'as vu, c'est pour ça, hein,
je suis pas habitué.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'éphéméride. c'est pas drôle en fait.
Donc, nous étions le 29 mai 2011 et nous allons remonter en 1867. Hein, toi qui regrettais des trucs qui étaient pas assez vieux.
C'est pas très vieux, je dis. C'est bon.
C'est la promulgation du North America Act qui a une grande importance dans deux semaines. Puisque ça crée le dominion du Canada. Donc c'est pas encore l'indépendance, mais c'est un peu la création du Canada. Et si on n'avait pas créé le Canada, on n'aurait pas créé le Grand Prix du Canada.
C'est vrai.
Hein, tu vois la logique.
C'est imparable.
Je suis admiratif. C'est...
Plus proche de nous, parce que oui, cette semaine, l'éphéméride, il est pas très riche. Donc on passe directement en 1993.
Ah ouais.
il est pas très riche cette semaine. Hein. Avec Édouard Balladur qui devient Premier ministre en France. Ouais, je sais, hein, j'ai vraiment dû chercher des trucs cette semaine.
Waouh.
Ouais.
Wow.
Ouais.
Sinon, le 29 mai 2004, la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie rejoignent. Devinez, qu'est-ce qu'ils rejoignent ?
L'UEFA.
L'Union Européenne.
Non.
L'euro.
Pas l'euro.
Le rouble. La roupie.
C'est pas de la monnaie.
L'espace Schengen.
L'Europe.
C'est pas l'espace Schengen.
Putain, ça a un rapport avec l'Europe ?
Oui, un peu quand même. Mais pas seulement l'Europe.
L'ONU ?
C'est pas l'ONU, mais ça commence pareil.
L'OTAN.
L'OTAN, ouais.
C'est l'OTAN. Des pays qui ont apparemment été des pays de l'Est, hein, des pays du bloc soviétique, donc qui rejoignent l'OTAN occidental. Sinon, les naissances. Le 29 mai 1939, c'est la naissance de Terence Hill.
Et ce jour-là, ils ont pu chanter « Il est né, le petit enfant. »
Oh mon Dieu.
Tu peux m'appeler Antoine, tu sais.
Non, celle-là, elle est bonne. Mais tu vois, le problème, c'est que celle-là, je vais la couper.
Non, non, laisse-la.
Je rappellerai que quand des gens font des blagues pas drôles, des petits chatons meurent dans le monde. Sinon, en 1943, c'était la naissance d'un musicien grec. Est-ce que vous avez son nom?
1943, Dimitrosos.
Nikos Aliagas.
Non, je vous dis les chariots de feu, entre autres.
Vangelis.
Vangelis, et aussi 1492, Christophe Colomb, et plein d'autres films, même si je me souviens plus du titre.
Ah ouais, les chariots de feu, ça faisait... Tan, 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 tan.
Alors là, d'un coup, je me sens jeune.
On reste dans le cinéma avec la naissance en 1957 du type qui aime jouer des immortels avec des épées, ouais. Christophe Lambert et son fameux rire.
Le sort de la Terre va dépendre de vous. Pardon.
Ils sont quittés un 29 mai en 1994. C'est Paul Grimaud qui est un réalisateur de films d'animation, peut-être même historiquement le plus grand réalisateur de films d'animation en France, oui. Qui a notamment réalisé le fameux Roi et l'Oiseau.
Ah oui.
Vraiment un chef-d'œuvre à voir.
Absolument.
Vraiment. Et en 2009, c'est presque une thématique cinéma cette semaine. En 2009, nous quittait aussi Maurice Jarre, le compositeur français. Alors lui aussi, des films, il en a fait une palanquée. Hein, et qui est le père de Jean-Michel Jarre.
Et l'inventeur de la Jarre.
Oui, et il élevait des Jarres aussi.
Tout à fait.
Sinon, le 29 mai au Chili.
Ah.
C'est... tu attends.
Concarné, c'est ça?
Non. C'est le Dia del Joven Combatiente, la journée du jeune combattant, en hommage au frère Rafael y Eduardo Vergara Toledo, tué par des carabiniers durant la dictature en 1985. Et c'est une journée de protestation non officielle, de désordre civil. Organisé par la gauche pour dénoncer les excès du pouvoir. Encore un truc là, bien chouette.
Je t'admire pour avoir réussi à faire cette phrase d'un coup.
Alors, en F1 ce jour-là...
Ah.
je pourrais vous parler de du Grand Prix d'Europe 2005, ce fameux Grand Prix d'Europe que Kimi a perdu dans son dernier tour, c'était triste.
Ouais.
Tout ça parce qu'il a fait un plat sur son pneu. Je pourrais vous parler de Alan Sir, mais le 29 mai... C'est la naissance, en 1963, de Ukyo Katayama. Alors, je ne vais pas vous faire la carrière de Ukyo Katayama, parce que sinon, ça serait vraiment très court. Hein, on est bien d'accord?
Oui, il nous faut. Ça sent le quiz spécial japonais, ça, Antoine. Je sais pas...
Pas un quiz comme la dernière fois, mais en effet, on va revenir sur le Japon en F1. Et on va commencer...
Être rapide.
Oui, non, juste, ça va
être... C'est normal.
Bridgestone...
Alors, on va pas parler de tous les fournisseurs et tous les sponsors. Déjà, on va commencer par les constructeurs. Est-ce que vous savez combien il y a eu de constructeurs japonais en F1?
4, non?
Presque.
Il y a Honda, il y a Maki, Super Aguri...
Ouais.
Kojima...
Toyota,
et t'as dit quoi, Dino?
Kojima, non?
Exactement, ce sont les 5. Honda, Kojima, Maki, Super Aguri et Toyota... Donc avec des fortunes diverses, hein, parce que Honda, c'est 3 victoires. Meilleur classement, 4e au championnat constructeur. Toyota aussi, 4e au championnat constructeur, mais pas de victoire.
Et Toyota aurait pu gagner en 2010 aussi.
Aurait pu, oui. Le palmarès de Super Aguri se résume à avoir fini des courses, ce qui est déjà pas mal.
HRT,
ils ont marqué 4 points.
Oui, ils ont quand même foutu une tôle à Honda quand ils étaient confrontés à Honda.
C'est vrai.
Ce sera déjà mieux qu'HRT, hein.
Tu as parlé en effet de Maki, donc il y a 12 non-participations entre 74 et 76.
C'est une Formule 1 faite à base de riz avec une feuille d'algue autour.
Une feuille d'algue autour.
Et que avant de partir, faut la tremper dans la sauce soja.
Et Kojima, qui a fait que 2 grands prix, en fait, les 2 grands prix du Japon en 76 et 77.
C'est pas justement un pilote Kojima qui avait signé officiellement le meilleur temps au Grand Prix du Japon en 60, je sais plus combien. À la place de
C'est un des 3 pilotes. On va y revenir. Donc ouais, au niveau des constructeurs, ça va. Vous avez trouvé. Au niveau des motoristes, est-ce que vous vous souvenez des motoristes japonais qu'il y a eu en F1?
Toyota, déjà.
Toyota, Honda.
Oui, Honda, oui.
Alors on peut noter Asiatec.
Ah oui. Ah bah là, c'est pas des vrais motoristes, là. C'est des mecs qui ont racheté les moteurs Renault.
Non, pire que ça, ils ont racheté les moteurs Peugeot.
Ah oui, oui, voilà, non.
Qui est équipé des Arrows et des Minardi, hein, vous voyez le niveau. Donc il y a eu Honda, on peut aussi considérer Mugen Honda comme séparé, parce que faut pas oublier que Mugen, on a parlé de Cosworth, c'est aussi un préparateur. Alors là, les liens entre Mugen et Honda sont encore plus forts, puisque c'est le fils de Soichiro Honda qui a fondé Mugen. Et donc, pendant une dizaine d'années, les moteurs, c'était pas des Honda au sens strict, c'était vraiment des Mugen Honda. Même qu'en 2000, il y avait Jordan en Mugen Honda et Barr en Honda.
Ils ont pas gagné d'ailleurs avec Mugen Honda.
Mugen Honda a gagné, ils ont 4 victoires. Il y a eu Monaco, Olivier Panis sur la Ligier en 96 et 3 victoires, donc une en 98 et deux en 99 avec Jordan. Donc en 98, c'était la Belgique avec Damon Hill et en 99, France et Italie avec Heinz Harald Frentzen. Sinon en motoriste, alors il y a aussi eu Subaru hein, qui est équipé Colony, ça n'a pas été une bonne idée de Subaru, on va dire. Et on peut aussi noter Yamaha.
Ah oui.
89 à 97.
Avec quelle équipe d'ailleurs?
Alors il y a eu du Zach Speed, Brabham, Jordan, Tyrell, beaucoup. Ils ont fini un peu avec Arrows. Et sinon c'est vrai que si on en doit en distinguer un, forcément c'est Honda. Alors qui n'a que 3 victoires en tant que constructeur, mais qui en a 72 en tant que motoriste et qui a été quand même champion du monde en continu entre 86 et 91.
Ça va.
Eh oui,
ça va, oui, comme Palmarès.
57 poules, 57 meilleurs tours, 174 podiums quand même, hein. Excusez du peu.
Et ça, dans la hiérarchie des motoristes, ça les mettrait combien?
Alors, en thème de victoire, ils sont 5e, derrière Mercedes avec 83 et devant Climax avec 40.
Ils sont bien installés.
Oui.
Ouais, Mercedes, pour l'instant, ils vont pas trop monter, quoi.
À noter qu'en termes de titres, ils sont quand même 4e, derrière Renault qui en a 9 et Climax encore qui en a 4. Par contre, c'est 6 en continu, entre 86 et 91. Ah ouais, c'est un record d'époque. Hein. Et alors, savez-vous combien de pilotes japonais on a eu en F1?
17, 18.
T'es pas très loin, mais c'est un peu plus.
23.
21.
21 pilotes.
Oh merde! Ah, j'aurais dû la voir, celle-là.
Tu mourras un jour, tu mourras.
Alors, faut distinguer d'abord, il y a eu quelques pilotes, en fait, en 76 et 77, mais uniquement au Grand Prix du Japon. Ouais. Et vraiment, en fait, le premier pilote japonais qui a fait une saison complète, c'est Satoru Nakajima en 87.
Il était d'ailleurs coéquipier de Senna chez Lotus, c'est ça?
Oui. Ouais. Je vais pas vous demander les 21, parce que voilà, c'est quand même des japonais. Mais voilà, si vous êtes capable quand même d'en citer un certain nombre, et notamment ceux qui ont peut-être le plus réussi.
Kamui Kobayashi.
Forcément, Kamui Kobayashi, alors qui, avec le nouveau barème, devient le japonais ayant marqué le plus de points, avec 54 points.
Ouais. Il n'a
pas de podium, rien.
Nakajima.
Oui, Nakajima.
Il y a les deux,
oui.
Entre guillemets. Il y a Satoru Nakajima, qui a quand même fait 74 Grands Prix, qui a fait un record tour, et en Australie 89. En effet, c'était sur une Lotus, ce qui serait qu'il était bien soutenu par Honda. Alors, même si, ah non, c'était pas avec Honda, c'était sur une Judd, Lotus Judd.
Hey Judd, don't let it back.
Je l'ai senti venir celui-là.
Kazuki qui a quand même fait 2 saisons, hein,
oui.
Sur Williams, et qui lui, paradoxalement, était soutenu par Toyota, alors que son père était soutenu par Honda.
Sinon, il y a Takuma Sato.
Takuma Sato, donc 44 points, hein, on peut dire quand même, ça reste celui qui a marqué le plus de points, qui a fait un podium, qui a mené 2 tours en tête, soit 10 kilomètres.
Wow.
Et alors, et oui. Et alors, son podium, c'était, je crois, au Grand Prix des États-Unis, oui, en 2004, sur barre, forcément, motorisé par Honda.
Il y a, Yuji Hide, Sakon Yamamoto.
Oui. Donc, Yuji Hide, qui n'a fait que 4 Grands Prix, mais qui a laissé une mémoire impérissable, notamment, à la FIA, qui lui a quand même retiré sa super licence. C'est pas lui qui avait demandé où était la marche arrière. Je me rappelle d'un extrait où je sais plus si c'est l'ingénieur qui lui dit ou c'est lui qui demande en fait où est la marche arrière parce que évidemment il s'était planté dans un bac à sable, un truc dans le genre.
Ah ouais.
Peut-être je vais donner quelques autres noms. Alors il y a Ukyo Katayama,
oui.
Qui a quand même fait 95 Grands Prix, c'est celui qui en a fait le plus.
Mais
bon,
il a pas été chez Prost lui à un moment donné.
Ah non, lui son grand truc c'était les Tyrell. Il a fini chez Minardi.
D'accord.
Une grande carrière Ukyo Katayama. Donc Takuma Sato on en a parlé, Satoru Nakajima, Aguri Suzuki,
oui, avant d'être le
propriétaire, oui. Eh oui, qui a fait un podium lui aussi. Les Japonais ont fait 2 podiums, il y a celui de Takuma Sato, il y a aussi celui d'Aguri Suzuki au Japon, Japon 90, sur une Lola Lamborghini. Après, qui peut-on noter d'autre? Shinji Nakano,
oui.
C'est lui qui a été chez Prost.
Oui.
33 Grands Prix, qui a marqué 2 points. Le fameux Toranosuke Takagi.
Mais il n'y avait pas un c'était en moto qui avait un Shinya Nakano.
Oui, c'était Shinya qui était coéquipier, je crois, avec Olivier Jacques.
Oui, il s'était même battu pour le titre en 250 et ça s'était fini dans le dernier virage, je crois.
Ouais, ouais. Donc on a parlé de Kami Kobayashi, Yamamoto, voilà. Après, bon, c'est beaucoup moins. Et en effet, tu as parlé du fameux record du tour. C'était Masahiro Asemi, donc qui roulait pour Kojima et qui en effet est officiellement crédité du meilleur tour au Grand Prix du Japon 1976, même si en réalité c'est Jacques Lafitte qui l'a fait. Même les organisateurs l'ont admis, mais voilà, ça n'a jamais été modifié. Donc officiellement, c'est Masahiro Asemi qui a fait le meilleur tour, même si en fait c'est pas lui.
Ce qui explique pourquoi Lafitte était gris maintenant à la télé.
Ah oui.
Oh, je suis pas sûr de ça qu'à cause de ça.
Ah oui, toute ta carrière a été remise en cause par ça.
Ah oui, voyons.
Donc moi, la question que je me pose, alors, on voit que c'est quand même très disparate. Il y a, au niveau des motoristes, on peut dire quand même qu'avec Honda, il y a quand même eu de grands succès. Les constructeurs, c'est mi-figue mi-raisin quand même, parce que Honda, ça a quand même été longtemps, il y a que 3 grands prix, 3 victoires. Toyota, c'est l'exemple même de l'équipe avec plein de pognon qui a jamais vraiment atteint le succès.
Parce qu'ils avaient, ils voulaient venir sans changer leur méthode, c'est tout ça le problème, oui. Ce qui fait qu'il les a pas fait gagner, quoi.
Oh, sans les Brawn, voilà, en 2009, ils étaient bien passés. Oui.
Moi, à leur place aussi, je frapperais le gars qui a quand même eu l'idée de recruter Ralf Schumacher.
Oui.
Quand même. C'est méchant.
Mais d'accord, il y a la voiture, il y a le moteur, il y a quand même des choix de casting. Je veux dire, se dire, ouais, on va gagner notre première course avec Ralf Schumacher.
Mais il a gagné des courses, Ralf, merde. Ils ont pris Trulli aussi, pourquoi tu dis rien sur Trulli?
Et puis on voit alors que les pilotes, Sato quand même, bon, a réussi à faire des podiums. On voit Kobayashi. Voilà, il y a le potentiel qui est là et on espère que il va exploser.
Il manque que la voiture. Hein.
Voilà, il manque que la voiture. Et qu'est-ce qui manque? Parce que le Japon, c'est un grand pays d'automobile, c'est un grand pays de sport automobile qui a eu beaucoup de succès. Comment ça se fait qu'il n'y ait jamais eu un très grand pilote japonais, par exemple? Alors qu'en plus, les pilotes sont souvent très bien soutenus, soit par les constructeurs Honda et Toyota, ou par des sponsors. Qu'est-ce qui manque? Enfin, vous dire qu'est-ce qui manque. Là, on a Kobayashi. Mais comment ça se fait qu'il a fallu attendre si longtemps pour qu'on se dise, tiens, un Japonais peut peut-être gagner des courses?
Mais je pense que c'est pas surtout un problème de Japonais qui peut gagner des courses, mais je pense que c'est surtout un problème culturel. Faut pas non plus oublier que le Japon a des championnats automobiles qui sont très costauds, notamment dans le tourisme et compagnie, donc c'est quand même des...
Le Super GT, le fameux Formula Nippon, quand même.
Voilà, ils ont quand même une tradition, et parfois ils n'ont pas forcément non plus besoin d'envoyer leurs meilleurs pilotes en Formule 1. On a tendance à oublier que la Formule 1, ça reste malgré tout quelque chose de très occidental.
Non, mais c'est le truc, c'est qu'il n'y a jamais eu le rapprochement suffisant, quoi. C'est pour être quand même un bon champion, faut qu'il y ait pas mal de trucs de réunis. Et malheureusement, il manquait tout le temps une petite composante. Il manquait la petite part de réussite et de chance, quoi.
Ouais. Puis c'est vrai qu'il y a l'éloignement qu'on a vu, parce que c'est vrai que par exemple pour les constructeurs, on sait qu'un des gros problèmes, c'était voilà, être en Europe, mais avec les décisions qui se font à Tokyo, même si la planète est de plus en plus petite, ça a toujours été compliqué. Bah c'est tout pour l'éphéméride. On va passer à l'actualité.
Oui, podium de l'actu.
Alors, ils sont combien cette semaine?
Ils sont 3.
Heureusement qu'on garde pas ceux de ce week-end. Hein.
Bien évidemment, hein, dans le choix des actus, on retire tout ce qui est actu qui concerne la course, puisqu'on normalement, si ça fait l'objet d'une actu sur le site, il y a quand même des petites chances qu'on en parle dans l'émission. Donc, ça sert à rien d'en faire le podium de l'actu. Donc, c'est vraiment l'actu entre les grands prix et c'est vraiment de l'actu pure. Donc, nous allons déjà rentrer dans du lourd, puisque nous allons parler de la troisième place. C'est un article qui était intitulé « Hamilton, volontairement gêné par les Toro Rosso en Espagne ?» Point d'interrogation.
Dire qu'au moment où l'article est sorti, on ne connaissait pas la suite.
Oui, mais ça, c'est qu'il y en a eu d'autres, parce que ça a commencé d'abord parce qu'il a dit que Schumacher, c'est Schumacher, parce que comme il est le compatriote et qu'il est ami avec Vettel, l'avait un peu gêné pour faciliter la tâche de Vettel. C'est bien sûr le genre de Schumacher. Il faisait déjà pas son frère. Je sais pas pourquoi il irait le faire pour Vettel. Et puis après, ouais, il a dit les pilotes Toro Rosso parce que c'est Red Bull, etc.
Ça ne devrait pas arriver puisqu'elles ne sont pas sœurs, n'est-ce pas?
Voilà. Honnêtement, il est injuste parce que c'est plus vraiment vrai que c'est Red Bull.
Ah non, mais attends, parce que en fait, comme ça va devenir Qatari, en fait, ils le font parce que en fait, c'est les Émirats et les pays arabes possèdent aussi Ferrari au départ dans Ferrari, oui. Donc c'est pour ça qu'ils le gênent lui.
Voilà, tout à fait.
Tu vois la logique. Tout ça s'annule par le fait qu'ils sont tous contre lui parce qu'ils sont tous blancs.
Ceci est une alerte du service après-vente de la F1. Un animateur va émettre un drive-thru. Vous pouvez en profiter pour vous préparer un café, acheter des croissants ou encore repasser votre linge, mais vous pouvez aussi l'écouter. On sait jamais.
Oui, Shinji, oui, Antoine, je vais mettre un drive-thru. Et je le mets plutôt que ce que je pensais le mettre parce que j'ai trop peur qu'on le pique.
Un gros sursaut là quand même.
Je me demande qui va l'avoir.
Donc je voudrais mettre un drive-thru à Lewis Hamilton. C'est pas pour l'ensemble de ses déclarations du week-end, pas pour voilà, pas voilà, on y reviendra, mais c'est plus spécifiquement sur la phrase qu'il a sortie quand on lui a demandé pourquoi il allait si souvent chez les commissaires, parce qu'il s'est plaint d'aller trop souvent chez les commissaires. Il a répondu sur le ton de l'humour, dit-il, que c'est parce qu'il était noir, comme le disait Ali J. Voilà. Ouais. Alors, faut quand même savoir. Première petite référence, c'est que Ali J, c'est quand même un film de avec Sacha Baron, enfin c'est un personnage avec Sacha Baron Cohen qui a fait l'objet d'un film, je crois, et c'est quand même l'histoire d'un rappeur blanc qui à un moment donné dans le film, je sais plus pourquoi, dit ouais vous me dites ça parce que je suis noir. Bon là c'est drôle.
Là mais c'est drôle.
Quand t'as un noir qui te dit ouais tu dis ça parce que je suis noir, c'est moins drôle, ça perd son potentiel comique.
Oui, on te le confirme, Sam Hinton est noir.
Alors là, franchement, j'ai plus.
Non, voilà, déjà, le fait que de se comparer à Ali J, j'ai trouvé ça ridicule. Parce que, directement, il détruit son argument. En plus, il y a certaines formes d'humour qui ne servent, c'est Stéphane Vrigno sur Eurosport qui a cette expression-là, qui ne sont que des alibis. C'est-à-dire qu'on va habiller un ressentiment personnel, un ressentiment réel, on va l'habiller sous la forme de l'humour, pour dire voilà en fait non c'était une blague. Même s'il a essayé d'habiller ça sous la forme de l'humour, je trouve quand même que c'est quelque chose avec lequel moi personnellement on ne peut pas plaisanter. On peut pas taxer non plus aussi légèrement et aussi durement les commissaires d'être racistes parce que c'est ce qu'il a fait et que c'est très grave. C'est très grave non seulement à l'égard de la Fédération Internationale Automobile et des commissaires, dont on a remis en cause la probité, mais c'est aussi très grave envers toutes ces victimes du racisme au quotidien, qui voilà sont d'une certaine manière décrédibilisées par quelqu'un qui utilise cet argumentaire-là de façon très légère, alors que c'est un sujet très sérieux.
C'est clair qu'en effet, s'il y a une chose sur laquelle il peut ne pas se plaindre, ou même on peut en être fier, c'est que il a jamais eu pour l'instant en F1 à subir alors à part en effet les cas que t'as dit en Espagne mais qui sont pas dus à l'organisation ou à des décisions mais à des abrutis, il a jamais eu à souffrir de ça et on peut même en être fier de se dire que finalement en F1 il y a jamais eu pour l'instant trop de soucis à ce niveau-là. Moi ce qui m'avait par exemple plu, c'est quand il est devenu champion du monde. Qu'est-ce qu'on a tous dit?
Ah, c'est...
On n'a pas dit, mais non, pas tant que ça.
Oh, il y a quand même des gens qui l'ont dit.
Il y en a, mais ce que tout le monde a dit, c'est oui, c'est le plus jeune champion du monde. C'est ça surtout qui a contenu les gens sur le coup.
Bah, parce qu'il a aussi réussi, c'est-à-dire que quand il est arrivé, quand même, faut quand même se rappeler que quand il est arrivé, on l'a vendu énormément comme le premier pilote noir. Et c'est vrai qu'entre temps, il a fait oublier ça, c'est-à-dire que quand il est arrivé, il était tellement bon qu'il a pas dénoté dans le paysage, quoi. On n'a pas remarqué, on s'est pas dit, ah, tiens, c'est le noir de la Formule 1. On s'est dit, tiens, c'est Lewis Hamilton.
Voilà.
Il s'est fait un nom. Ce qui est terrible ce week-end, c'est qu'il s'est rabaissé, parce que c'est se rabaisser, il s'est rabaissé à, voilà, je suis le noir je suis le noir du coin. On en a après moi, parce que je suis noir.
Ici, il n'avait pas été là comme, enfin, il n'a pas parlé comme étant le champion du monde 2008, quoi. Ni comme un pilote. Il a parlé comme, pour moi.
Mais globalement, sur tout le week-end, il a débranché son cerveau, c'est, voilà.
Ben, tout le long du week-end, il a été trop optimiste. C'est, que ça soit pendant les qualifications, dans son comportement pendant le Grand Prix, il a été vraiment trop optimiste dans tout ce qu'il a fait.
Bah, il s'est surtout mis une énorme pression avant la course, oui. En disant je suis le seul à pouvoir battre Vettel, en disant dès le jeudi après les essais libres je veux offrir cette victoire à McLaren. Même dans sa qualification, il est trop présomptueux. C'est ça le problème, c'est qu'il est trop présomptueux.
Et j'espère que là, ce qui s'est passé ce week-end va lui faire dégonfler la tête, parce que là, Jensen a montré clairement qu'il pouvait lui rendre l'appareil.
Non, puis c'est vrai que Lewis se donne une espèce, enfin. On lui donne, enfin, est-ce qu'on lui donne ou est-ce qu'il c'est lui qui fait exprès. Il y a une espèce d'image de bad boy qui est en train de se créer un peu autour de lui entre son comportement sur la piste, le coup de Sutil là à Shanghai. Enfin, tu vois, il y a un côté mauvais garçon, mais vraiment mauvais garçon dans le mauvais sens du terme, parce que ça devient vraiment négatif. C'est pas le petit mauvais garçon, mais qui va être nickel sur la piste et qui va nous faire
des trucs. Moi, personnellement, je te dirais, je préfère voir cet aspect-là de Lewis que voir le Lewis qui, tout le monde il est beau, tout le monde il est joli.
Mais c'est ça, en plus, le paradoxe. Voilà. C'est qu'il fait très propre sur lui, et puis tu te rends compte qu'à côté, voilà.
Même les autres déclarations, quoi, de traiter les pilotes de stupides, de dire qu'ils étaient,
Et il s'est excusé. Ouais,
il s'est excusé, mais il a quand même dit,
il le pensait.
De toute façon, c'est certain. Bah, quand c'est dit à chaud, c'est toujours pareil. Quand tu le dis à chaud, il y a toujours une partie de oui, c'est dit à chaud, mais il y a quand même un fond de vérité à chaque fois. Donc c'est ça le problème. C'est même dans sa déclaration sur le fait qu'il soit noir, même si on dit que c'est une blague, ça n'empêche pas que derrière la blague, il y a quand même une vérité. Tu sors pas ça comme ça, ça te tombe pas du ciel devant des journalistes. En plus, c'est super imprudent parce que tu déclares pas ça à un copain. Tu peux rigoler avec des gens que tu connais, avec des gens que tu connais pas. Ou alors des gens dont tu sais que ce que tu vas dire va sortir de la discussion, tu peux pas rigoler parce que tu sais très bien que de l'autre côté, derrière le journaliste, se cachent des milliers voire des millions de personnes qui vont lire tes commentaires et qui vont interpréter en fait son discours de la mauvaise manière. Là, Hamilton, c'est même pas une déclaration auprès de proches qui aurait pu être transcrite par la presse, c'est une réponse à un journaliste. C'est super imprudent ce qu'il a fait. C'est un manque. C'est pour moi le plus grand manque de contrôle de son week-end. C'est quelqu'un qui quand même depuis qu'il est arrivé maîtrise bien les médias et la communication. Et là, il a raté sa communication.
Non, mais c'est l'habitude d'un Hamilton assez mesuré, enfin calme et mesuré, à part en course. Mais là, il a vraiment perdu le contrôle, quoi.
Ouais, puis il y a cette mauvaise habitude de Lewis Hamilton. C'est pour Lewis Hamilton, c'est jamais de sa faute.
C'est ce qu'a dit.
Mais jamais.
C'est ce qu'a dit Jackie Stewart. Hein. Non, c'est pas Stewart, c'est Martin Brundle.
Jackie Stewart aussi a tapé sur...
Oui, mais ce que toi tu dis là sur le fait que c'est jamais de sa faute, Brundle, elle l'a dit. On a l'impression avec Lewis que quoi qu'il arrive, c'est jamais de sa faute. D'ailleurs, ce qui est très intéressant...
C'est ce qu'a dit Benoît dans sa chronique.
Ce qui est d'ailleurs très intéressant dans les déclarations qu'il a fait aujourd'hui, enfin qu'il a fait hier, où il s'est excusé, etc. Les réactions aussi de Stewart. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il dit oui, l'origine de la tension, c'est quand je suis allé au stand, on m'a appelé, il y avait personne. Encore une fois, tout en s'excusant, il arrive quand même derrière à redire que c'est pas de sa faute, que l'origine de la tension de son week-end, en fait, elle était due à quelqu'un d'autre. Non, tu t'es monté de bourrichon tout le week-end.
On passe à une autre actu.
Donc ensuite, la deuxième actu la plus lue concerne un pilote McLaren, mais pas Lewis Hamilton.
Jenson Button, Jeff Ferrari.
Ah, waouh, la foule est en délire. Waouh.
Ce serait suicidaire de sa part.
Oui. Je crois qu'actuellement, il n'y a qu'un jeune pilote qui peut prendre. Enfin voilà, si t'as de l'ambition, on va dire. Si t'es un pilote confirmé, que t'as du talent, tu vas pas aller chez Ferrari. T'as Pérez, pas envie d'aller dans une équipe en étant qui ça?
Pérez.
Voilà, mais Pérez. Voilà. Non, mais quand t'es un bon pilote avec une carrière avancée, que tu veux jouer le titre, tu vas pas chez Ferrari. Tu sais que tu vas être nul.
Ah moi y en a un que je veux. Je le veux chez Ferrari. Je veux mon Eki chez Ferrari.
Là actuellement, ce qu'il faut, c'est l'idéal, ça serait voilà un jeune pilote qui à la limite peut se permettre d'être numéro 2 pendant 3 à 4 ans, quitte à rebondir dans une autre équipe plus tard. Non, mais je crois que c'est Ferrari qui a un autre rêve. Ils ont 2015 et voilà.
Et Vettel, oui.
Voilà.
C'est dommage, c'est qu'il y a Bianchi qui était bien parti en début d'année. Mais là, ça fait deux week-ends catastrophiques qui font en GP2.
Il est 13e, il est pénalisé à tour de bras.
Ah oui, non, mais il est pénalisé à tour de bras, il a un chat noir sur ça. Il a un chat noir, quoi. C'est malheureux à dire. Le truc, c'est que Ferrari ne voulait le prendre que s'il gagne le championnat GP2.
Bon, c'est serré,
ça va être, oui. Si il y a de la chance, c'est que lui, il y a Sam Bird, Van der Garde, Grosjean, tout ça qui se sont disputés un peu les points. Puis Charles Leclerc, surtout. Ouais.
Ce qui fait quand même qu'en GP2, on a une belle cuvée. Hein.
Oui, les courses de GP2 sont superbes.
Faut le dire. Qui est peut-être même l'une des meilleures depuis le début du GP2.
Ouais.
Oui. Puis la course 1 à Monaco a été superbement marquée par Grosjean.
Non, pour revenir à Button, c'est juste parce qu'il a dit une petite phrase. Hein. Il rêvait de 3 équipes, il en a déjà roulé pour 2. Donc,
automatiquement, derrière. Mais en même temps, c'est quand même assez important à noter que on a déjà eu la rumeur il y a un mois Hamilton chez Red Bull, en tout cas l'existence d'un pré-contrat.
De toute façon, là, on est sur 2 ans de suite où c'est très stable. Donc on sait comment ça marche. Il y a des années très stables et puis
non, puis même
tous les 2-3 ans ça part dans tous les sens.
Là le truc c'est que apparemment les deux pilotes McLaren sont en pleine renégociation de contrat. Donc je pense qu'en ce moment les deux pilotes font du lobbying, Hamilton plus discrètement parce que il est beaucoup plus lié à McLaren et Button un peu dans la presse en disant ouais moi j'ai toujours voulu rouler pour 3 équipes histoire de mettre la pression sur McLaren pour qu'ils sortent la planche à billets tout simplement.
Moi je suis sûr que c'est à quel Grand Prix qu'ils avaient la combinaison rouge. C'était Malaisie
en Chine.
Et donc il y a pris goût aussi.
Oui.
Et donc on a une troisième actu, Dino.
Ça là je sens qu'elle va déchaîner les débats. D'ailleurs je te dis heureusement que t'as fait ton éphéméride avant, sinon on n'était pas arrivé. Accrochez-vous bien, cette news qui a atomisé toutes les autres news ne concerne pas Nicole Scherzinger.
Est-ce qu'elle concerne Ferrari?
Elle concerne Fernando Alonso. Qui s'est payé un casque doré à Monaco? La grosse nouvelle!
Ah ouais!
Ce magnifique casque doré. En même temps, et vu ce qu'il gagne tous les ans, il aurait pu mettre des vraies feuilles d'or. C'était juste de la peinture dorée.
Bah, techniquement, ça l'a aidé à briller quand même.
Bon, ce qui est rassurant quand même, c'est qu'il l'a eu juste pour Monaco.
Oui.
Non, mais c'est comme la Ferrari, c'est beau et ça brille.
Voilà.
Voilà.
Mais après. C'est pas terrible.
En comparaison, le casque de Vettel était vachement plus classe.
Je sais plus ce qu'il y avait sur le casque.
Tu sais, en fait, sur la partie qui, il le change d'ailleurs à chaque course, ouais. En fait, hein, cette partie-là sur le dessus. En fait, ça faisait des affiches, des vieilles affiches du Grand Prix de Monaco.
Ah ouais.
Et ça faisait vraiment très, très, ça lui a porté chance. Et puis, enfin voilà, c'était vraiment original pour le coup. Et puis ça changeait de, oh tiens, on va mettre un truc de roulette ou de carte à jouer parce qu'on est à Monaco.
Bah, il y a Hamilton qui a mis des dés.
L'année dernière, c'était des diamants. Réduction budgétaire.
Voilà, c'était. Alors juste pour vous dire, hein, c'est parce que je me suis amusé à noter les 5 premières. Donc, on a donc les 3 premières actus. Hein, Hamilton volontairement gêné par les Toro Rosso, Jenson Button en partance pour Ferrari pour remplacer Felipe Massa et Fernando Alonso se paye un casque doré à Monaco. Hein, d'accord. Donc ça, c'est les trois actus les plus lus. Juste devant la 4e et la 5e. Je vous les lis dans l'ordre. La 4e, Aldo Costa renonce à ses fonctions chez Ferrari. Ce qu'on aurait tendance nous à mettre en tête peut-être du podium.
C'est quand même pas anodin.
Et la 5e, c'est le diffuseur soufflé bridé par la FIA. C'est pareil, c'est pas non plus une petite actu.
Diffuseur soufflé, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, oui. Donc c'était pas trop grave. Sur Aldo Costa, quand même, on peut y revenir un peu, c'est quand même pas anodin. Apparemment, après la course, puisque bien évidemment, comme le Grand Prix d'Espagne était sponsorisé par Santander, il y avait le PDG de Santander, et apparemment, il aurait passé un gros savon.
Oh, c'est une rumeur.
Bah, en tout cas, dans le Horse Whisperer, là, le blog de Ferrari, ils ont dit que c'était des conneries. Mais maintenant, est-ce qu'il faut croire ce que dit Ferrari
Ils ont vu rouge, hein.
Peut-être.
Non, alors, comme tu disais, c'est Pat Fry qui profite du coup pour prendre un peu de hauteur dans le organigramme Ferrari.
Alors, il me semble que dans la dernière émission sur Grand Prix d'Espagne, on a eu un long débat avec Buchor à ce sujet, mais que je l'ai coupé au montage.
Ah, d'accord.
Parce que je savais qu'on allait en reparler. Et c'est vrai que dans ce débat-là, j'avais dit que pour moi, à terme, il fallait regarder du côté de Nick Fry, de Pat Fry. De Pat Fry qui allait, je pense, d'ici 2012, prendre plus de responsabilités. Parce qu'il est habitué aux méthodes McLaren, donc on sait que McLaren a là de l'avance dans certains domaines, dans la conception des monoplaces, là où Ferrari est un peu à la peine en ce moment, là, la simulation, la CFD et compagnie, où peut-être Ferrari est un petit peu en retrait.
Simulateur aussi.
Voilà, donc c'est en ce moment peut-être l'homme de la situation chez Ferrari, faut voir.
Ouais, bah oui, de toute façon.
En tout cas, officiellement, personne ne prend la place d'Aldo Costa.
C'est bon pour les actus? On passe aux citations, peut-être.
Ah ouais.
Qui a une citation?
Bah normalement, on en a tous. J'en ai même deux. Oh. J'en ai deux de Brésilien. Je peux peut-être d'ailleurs commencer parce que la mienne, elle est très, très, très rapide.
Oui.
C'est une citation de notre ami Felipe Massa.
Oui.
Qui a déclaré, Je fais toujours l'amour le samedi soir avant la course. Même si je sais que ça ne me rend pas plus rapide.
Effectivement.
Ça te rend pas plus rapide. Vaut mieux que ça ne rende pas plus rapide.
Mais surtout, ce qui est incroyable, c'est qu'il dit toujours, je fais toujours l'amour le samedi soir. Ouais, nos grands-parents aussi.
Mais eux, ils ne font que le samedi soir.
Voilà. Voilà. Il fait comment à Singapour?
Bah, il fait ça le samedi matin. Au réveil.
Quelle est ta deuxième citation?
Ah non, mais je vous laisse dire le reste.
T'as vu le niveau d'accord. de la première?
Non, le pire, c'est
t'as que... T'as vu le niveau ouais, de la première?
La deuxième est pas mal.
Une petite citation de Bernie Ecclestone. Oh. Ce sont de bonnes gens. C'est Bernie qui donne son avis sur Bahreïn. Hein. Ce sont des bonnes gens. Oui. Hein. Faut rappeler qu'au Bahreïn, il y a donc eu une répression qui a laissé 36 manifestants morts, 66 disparus et plus d'un millier de blessés. Mais ce sont des bonnes gens.
Hein. Quand on se souvient des déclarations qu'il a eues sur Adolf Hitler... On se dit que 36 morts, après tout, c'est gentil, quoi. C'est que...
Bahreïn qui se dit prêt, hein. Ils disent, c'est bon, hein, on peut organiser.
Et face à la fin de saison, au 4 ou 11 décembre.
Ouais, c'est ça, c'est qu'ils vont finalement virer le Grand Prix d'Inde de sa date initiale pour mettre Bahreïn. Et du coup, ils mettraient le Grand Prix d'Inde le 4 ou le 11 décembre. Et je crois qu'il y a des équipes, elles ont dit,
c'est trop long. Là, c'est
il
pas
fait
possible.
Trop
fort. Brown en particulier.
Moi, décembre, mais vous êtes dingue.
Les gars, tu regardes Red Bull, la RB7, ils ont dit la voiture était pas encore commencée, enfin, était pas encore totalement sur les plans à Noël. Qu'est-ce que ça va être si la saison finit le 15 décembre? Arrête.
Déjà, ils veulent même pas des essais sous prétexte qu'ils veulent pas qu'il y ait de nouvelles équipes de décès parce que le rythme est tellement continu
ouais.
que l'équipe de course pourra pas faire en plus d'essais.
Mais tu regardes cette année encore, ça va pour le développement, vu que Red Bull et Vettel vont plier le championnat en septembre. Mais
Donc apparemment, pour Bahreïn, ils vont se décider ça vendredi. Et alors, comme quoi, ça tombe super bien. Comme par hasard, l'état d'urgence à Bahreïn, je crois qu'il s'arrête la veille ou demain.
Ouais.
C'est demain.
C'est magique, hein. C'est magique, hein. Et toi, Antoine?
C'est une citation de Nico Rosberg, donc samedi après-midi. À propos de l'accident de Sergio Pérez, donc je ne les ai pas vus, je pense que c'est mieux si je ne les vois pas. Donc il dit ça en parlant des images de l'accident de Pérez, que lui a esquivé de quelques millimètres, donc le mur. Donc ça remonte quand même que les pilotes restent humains, que c'est pas non plus des fous furieux qui n'en ont rien à faire du danger, qui connaissent pas les conséquences de ce qui peut arriver. Et ils savent très bien ce qu'ils risquent chaque seconde. Quoi.
Ouais, mais
c'est pas des machines.
Moi, j'ai aussi envie de leur dire quand Rubens Barrichello et je sais plus qui ont dit que le DRS à Monaco fallait peut-être agir. Qui s'est réveillé? Moi, je suis pas sûr que Nico Rosberg se soit mobilisé. C'est quand même grave qu'il faille qu'on frôle la mort pour certains, en tout cas qu'on se fasse très mal pour que les mecs se décident enfin à réagir. On n'a rien appris de 94. C'est-à-dire que 94, il a fallu que Ayrton Senna et Roland Ratzenberger meurent pour qu'on se décide enfin à ranimer le GPDA et à donner de la force au GPDA. Et on est encore en train de se rendormir ils sont encore en train, eux, pilotes, de se rendormir sur leur laurier et de pas réagir. Et résultat, ce week-end, ils se sont fait de grosses frayeurs à Monaco. Et maintenant, maintenant faut agir. Maintenant, il fallait agir avant.
Mais fallait au niveau du DRS, c'est pas ce qu'il y a joué.
Oui,
là,
non, mais
surtout,
c'est
la sécurité des circuits n'est pas adaptée aux performances.
Non, mais surtout, ce que Dino veut dire, c'est que voilà, ils se disent ah
ils
oui,
se mobilisent quand ils veulent
la sécurité. Alors que voilà, ils auraient pu le faire avant, par exemple sur l'exemple du DRS à Monaco. Alors qu'ils n'ont rien fait. Allez, on va passer à la course. Et donc, au qualif. Et la place du con cette semaine. Ça faisait longtemps, je crois qu'on n'avait pas vu Toro Rosso en Q1, ce
moment, j'aurais bien.
Oui, mais toute la place. Voilà. Je pense que la place du con, il aura plus de place du tout bientôt.
Et notez quand même que les HRT n'ont pas roulé, mais elles ont été repêchées.
Ouais.
Puisqu'on a considéré qu'elle roulait quand même assez vite pour participer à la course.
Ouais, c'était dans les 107%.
Ouais. Ce qui fait qu'au final, on peut se demander l'utilité des 107%, puisque si tout le monde peut être repêché.
Ils étaient dans les 107% des EL3.
Même c'est ce qu'ont dit les pilotes après dans les déclarations. Ça fait depuis le Grand Prix d'Australie où on se qualifie tout le temps.
Oui.
Là, malheureusement, dans les circonstances, on pouvait pas partir. Puis.
En plus, il y a eu des problèmes vraiment techniques.
Voilà.
C'était vraiment
les mecs sont flingués, quoi. Ça fait comme depuis le début de saison, ils sont sur un rythme à chaque fois pour réparer les voitures. Ils ont déjà utilisé leurs trois jokers de nuit sur quatre possibles sur l'année. Déjà, ils sont tous flingués. Les mecs, ils arrivent. Tu peux pas leur demander le samedi après-midi de résoudre un problème en un quart d'heure. Là où c'est possible chez Mercedes, chez HRT, les mecs, ils sont déjà sans doute mal payés. Ils sont déjà pas mal sollicités. Et voilà, c'est...
Donc, à noter en Q2, un Nick Heidfeld qui ne fait que 16e.
Oui.
Quand même.
Soit en... d'ailleurs Eric Boullier.
Ouais. Bon, globalement aussi, les Renault ont pas fait un super week-end. Hein. Mais là, c'est vrai que pour quelqu'un qui est quand même censé suppléer Robert Kubica, hein, en tout cas essayer de faire aussi bien, c'est très en dents de scie, je trouve, Nick Heidfeld, hein, depuis le début de saison. Il y a parfois des bons trucs, mais voilà, parfois voilà, il y a des 16e places, c'est pas terrible.
Mais je commence à me demander s'ils avaient pas testé par rapport justement au diffuseur soufflé. S'ils n'avaient pas tenté de réduire le volume de gaz d'échappement à l'axel. Parce que déjà, ils avaient des gros problèmes la première, vu qu'elle est réglée spécialement pour les départs. Et je me demande si ça n'a pas joué, vu que tu remets quand même la première 4-5 fois par tour à Monaco.
Et donc, sur la Q3, là, par contre, il y a énormément de choses à dire sur la Q3. Bon, déjà, donc il y a cette 10e place, qui était déjà bien, je veux dire, pour Perez, le fait de passer en Q3.
Non, c'est la première fois de la saison.
Ouais, ouais. Oui, oui. C'était quand même vachement bien.
Bon, déjà, en Q2, il était à la limite. Hein. On l'a vu quand même attaquer très très fortement.
Ouais. Donc jusqu'à ce malheureux accident. Donc finalement il va bien apparemment. Pourrait même peut-être, je sais pas, pour le Canada ça pourrait être ok visiblement.
Canada c'est bon.
C'est
il
bon.
Doit juste rester. Là il reste quelques jours à Monaco. Donc parce que les médecins veulent pas qu'il prenne l'avion avec sa commotion cérébrale.
Voilà.
Qu'a priori ça devrait être bon.
Donc gros carton. On a eu un peu peur parce que ça a pris un peu de temps entre guillemets et que bon on s'inquiète toujours quand ça prend du temps. Mais finalement ça va, rien de cassé, y a pas de bout de carbone qui rentrent dans le cockpit. Un endroit qui est dangereux, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, parce que on a beaucoup parlé de ce qui pourrait être fait pour éviter à l'avenir que deux, parce qu'il y a eu deux accidents finalement, se reproduisent. Alors il y a la solution Lafitte, qui est de couper les arbres carrément. Il y a aussi peut-être cette fameuse bosse, parce qu'on voit bien, on la connaît tous. Voilà, c'est quand tu sors du tunnel, c'est vrai qu'il y a cette cassure qui fait qu'on plonge véritablement sur la chicane. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas lisser entre guillemets entre la sortie du tunnel et le début de la chicane
pour éviter, serait limite de faire une pente plus douce.
Voilà, faire une pente plus douce pour éviter ça.
Quitte à reculer la chicane d'ailleurs, hein, s'il faut la reculer encore un peu plus.
Alors déjà apparemment, qui va être fait, puisqu'en fait derrière le muret il y a une grue. Apparemment ils vont enlever la grue. Pour reculer le muret, apparemment, en faisant ça, déjà, tu gagnes une vingtaine de mètres. Hein.
Mais c'est pareil, enfin, quand tu vois les dégagements qu'ils font à Singapour, où t'as des portions de piste et sur le côté des portions qui sont pas la piste, en mettant un vibreur, pourquoi tout simplement pas à cet endroit-là retirer le mur jusqu'au bureau de tabac, faire une portion, une portion, voilà, qui serait délimitée par un vibreur,
plane,
portion plane. Comme ça, si les mecs se plantent, eh ben, ils se plantent, mais au moins, ils risquent pas de se taper un mur. Parce que là, on dit reculer de 20 mètres. On a déjà reculé ça de 10 ou 15 mètres.
Oui.
Donc, c'est-à-dire que,
mais après,
un jour, il y aura un mec qui va encore ressortir. Moi, je suis pas convaincu que, Sergio Perez, si la voiture avait, si le mur avait été 20 mètres plus loin, je suis pas sûr qu'il aurait pas non plus tapé le mur. Il aurait peut-être tapé moins fort, mais il aurait quand même tapé le mur.
Il aurait pris 75 yeux au lieu de 80.
Voilà.
Voilà.
En fait, le truc, c'est qu'il faut toutes ces solutions-là qu'on a vues un peu disparates, en fait, il faudrait toutes les faire. Vraiment, c'est-à-dire aplanir la pente, reculer, transplanter les arbres, et quitte au lieu de faire un muret, avoir en effet jusqu'au bureau de tabac, à la limite un gros vibreur pour limiter la piste de l'échappatoire. Mais ouais, c'est peut-être un peu finalement toutes ces solutions-là qui devraient être faites, et pas seulement une ou deux, parce que comme tu dis, on recule de 20 mètres, mais on a déjà reculé de 20 mètres auparavant. Et les voitures vont de plus en plus vite. Parce qu'apparemment, c'était une seconde, je crois, déjà par rapport à l'an dernier.
Ah, Vettel a été 4 dixièmes plus rapide que Weber l'année dernière. Ouais.
Le DRS a pas forcément son influence là, puisqu'on est à la sortie du tunnel.
Ils l'ont utilisé, mais sérieusement, il y a des endroits où ils l'utilisaient en qualification, comme ils l'utilisent un peu partout. Ils l'ont utilisé pas à cet endroit-là. C'est d'ailleurs là où est le problème, c'est que justement là, les incidents de ce week-end ne sont pas dus au DRS, mais on a vu Schumacher qui l'utilisait un peu partout, dès qu'il y a une portion de plate, hop, il l'activait, il réactivait. Donc tout ça fait des micro-gains de quelques millièmes, quelques dixièmes,
ouais,
qui à la fin améliorent sensiblement le temps.
Voilà, ils ont dit une seconde à peu près plus vite que l'an dernier. Une seconde, c'est énorme. Et encore une fois, même si c'est très bateau de le dire tous les ans, mais c'est tellement vrai. Ils ont énormément de boulot ce week-end. Faut quand même saluer quand même les tous les commissaires de piste à Monaco qui encore une fois ont montré qu'ils étaient les meilleurs, quoi.
Il y avait un truc, c'était hallucinant. C'est quelle voiture? C'est la, je crois que c'est la voiture de Maldonado.
Alors ça, ah oui, c'était incroyable.
Ils ont mis une minute.
On suit la voiture, on retrouve, je crois, Hamilton qui passe au même endroit, il n'y a plus rien.
Il n'y a plus rien.
Et là, tu te dis, mais c'est magique, quoi.
D'ailleurs, les commentateurs, c'est va y avoir une safety car. Non.
Non, même pas. Ce qui fait qu'ils ont fait le tour en temps normal, hein. C'est-à-dire, à peu près, ouais, une 20. Pas
ouais,
plus,
voilà,
hein. Pour revenir, à Saint-Dévaz. Ah non, ouais, c'était impressionnant, ce petit passage comme ça. Ils ont eu du boulot ce week-end. Ouais. Sinon, pour revenir sur la Q3, je ne comprends pas. Donc il y a Lewis. Donc, ça a été un début, on va dire, de son fameux week-end qui a coupé la chicane.
Bah, ça a été l'effet marquant de son week-end, de toute façon, la Q3.
Donc normalement, il devait être dixième, mais comme Perez n'a pas fait de temps, ils l'ont mis neuvième. Ouais, c'est un peu injuste quand même. Ils ont quand même pu garder Perez 9e, rien que symboliquement mettre Lewis 10e.
Mais je suis même pas sûr Perez, il avait pas de temps.
Bah non, il avait pas de temps, donc il était 10e en fait.
Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il compte comme temps? Parce que si Lewis n'a pas de temps, si Perez n'a pas de temps, ils vont regarder dans les temps de la Q2. Et en Q2, Lewis était devant.
Oui, non, en fait, Lewis a juste été totalement déclassé. Et on a pu voir que comme ça, il a pu partir en soft.
Oui, en effet, ouais.
C'était d'ailleurs le seul dans le top 10 qui partait en soft.
On notera aussi Maldonado, quand même 8e, hein, avec la Williams. Sachant que Barrichello aussi avait fait 12e, mais voilà, Maldonado 8e, c'était quand même pas mal du tout.
Bah, il a bien tiré avantage de son expérience en GP2, quoi.
Ils l'ont rappelé, il l'a gagné plusieurs fois, en fait, dans plein
deux de... Deux fois en GP2, alors une fois il y a 2 ans.
Et l'autre en WSR.
Et l'autre en World Series by Renault,
ouais.
Enfin, Formula Renault 3.5.
Ouais, voilà.
Ouais, pour être ici, ouais. En 7e place, quand même, il y avait Nico Rosberg. Ça paraît anodin, mais avec le crash qui s'était tapé le matin même.
Et que la voiture était juste réparée en plein milieu.
Hein. Ouais, et le fait voilà de taper un temps alors que bon, tu viens de taper le mur quelques heures plus tôt, chapeau quand même.
Mais c'est la preuve quand même que c'est des malades, ces mecs.
Ah bah, ils réfléchissent
voilà,
pas.
C'est...
De toute façon, il faut pas. Tu te dis, il y a le mur en face, je peux le toucher, je peux me blesser. Je pense que t'oses même pas faire un tour en 1.20. Ouais. Tu te dis, je vais faire attention. Monaco, tu peux pas. C'est fou. Ouais. Faut que t'attaques.
Mais d'ailleurs, moi, ce qui est le moment où j'ai adoré du week-end, pour moi, l'image la plus forte, c'est l'image de tous les pilotes qui sont dans les stands au moment où il y a l'interruption de séance.
Ah oui.
Vous êtes Perez.
Oui. On voit la concentration des pilotes, la manière dont ces pilotes limite dorment. À un moment donné, moi, j'ai l'impression que Vettel dormait. Pour oublier ce qui se passe autour, quoi, pour rester dans leur bulle. Et c'est là où on se rend compte que c'est quand même des qui ont une capacité de concentration absolument exceptionnelle, et en même temps que ça reste des humains. Parce que pour développer autant d'efforts pour pouvoir se fermer dans une bulle et faire abstraction de ce qui vient de passer, sans même avoir d'informations. Et c'est quand même dire que on est friable quand même.
De toute façon, c'était ce week-end sur dimanche F1, Montagny et Bourdais l'ont dit, hein. Si tu commences à réfléchir, faut arrêter, quoi.
C'était d'ailleurs intéressant de regarder dans Dimanche F1 parce que les deux avaient le même discours en disant mais faut arrêter aussi, quoi. Ils sont pas non plus là pour enfiler des perles. C'est certes, il y a des problèmes de sécurité qui sont.
Ah oui, c'est vrai que faut le dire, ils ont quasiment dit qu'en gros que l'accident de Perez c'était que dalle.
En gros, ils ont surtout dit que c'était le contact avec le mur, enfin avec le rail,
oui.
Et que le choc final était rien. Bon.
Oui, oui.
Puis même, enfin, il y a un discours aussi derrière. C'est là où c'est d'ailleurs effrayant. Quand on écoutait Montagny, il disait oui, non, mais aujourd'hui, de toute façon, on risque plus rien. C'est limite ça qu'il disait, et ça en choquait certains autour. Mais en même temps, c'est vrai. Aujourd'hui, on a créé des conditions de sécurité où on a vu des crashs énormes, où les mecs s'en sortaient finalement très bien.
On peut se rappeler Marc Weber.
On peut se rappeler Marc Weber. On peut se rappeler Kubica. Oui. On peut se rappeler.
Mais exactement, Pérez. Il disait, il y a 20 ans, t'avais des crashs comme ça, c'était horrible.
Les mecs mouraient.
20 ou 30 ans. Les mecs mouraient, les voitures flambaient, c'est horrible, hein, quand une voiture crame, ça a donné des choses horribles. Ils disaient, maintenant, ils massacrent leur voiture, il reste plus rien, il reste plus que la cellule de survie, ils sortent, ils disent, merde, je vais pas pouvoir rouler demain, quoi.
Mais c'est d'ailleurs ce qu'a dit Button, je crois, dans les déclarations après qualif, une demi-heure après l'incident. Je sais qu'il est déjà en train de dire à ses médecins qu'il va faire la course demain, etc.
Et on peut noter quand même sur cette Q3 le bon résultat quand même global des Mercedes sur la qualif. J'entends bien sur la qualif.
Mais ça, c'est une constante depuis le début de saison. Ils sont bons en qualif.
Attends, on voit quand même que ça fait deux week-ends de suite que Alonso n'est plus Mr. 5.
Ah bah non, ouais. Parce que Mr. 5 s'est quand même piqué la place par l'ancien Mr. 11.
Oui, mais tout ça parce que Hamilton est tombé. Sinon, il aurait réussi Mr. 5.
C'est vrai.
Ah, je suis pas sûr parce que je pense quand même que si Hamilton fait un tour normal, c'est qu'il n'y a pas eu l'accident de Perez. Je pense quand même que sur la forme, Alonso avait quand même les armes d'être un peu plus fort. Faut quand même rappeler qu'à ce moment-là, ils ont commencé à chausser les pneus. Ils sont sur des, parce que c'est important à Monaco de faire des séries de tours. En plus, ils ont expliqué que les pneus super tendres, ils étaient pas tout de suite opérationnels, pas dès le premier tour. Hein, fallait attendre le deuxième, voire le troisième tour pour vraiment qu'ils donnent leur plein potentiel avant de se casser la gueule. Mais que voilà, donc du coup.
Et Mercedes, ça faisait ça.
La conjugaison de tous ces facteurs-là fait que les premiers tours chronométrés des pilotes sont pas forcément les meilleurs et qu'on peut penser que certains, comme Fernando Alonso qui s'est montré à son aise tout le week-end, auraient pu améliorer, notamment sur Weber et sur Button.
Ceci est une alerte du service après-vente de la F1. Un animateur va émettre un drive-thru. Vous pouvez en profiter pour vous préparer un café, acheter des croissants ou encore repasser votre linge, mais vous pouvez aussi l'écouter. On sait jamais.
Donc, drive-thru sur Pirelli. Donc, par rapport à ses gommes. Donc, qui commence à légèrement embrouiller tout le monde avec les appellations diverses. Donc, cette semaine, on a eu droit au que... Prime, qui était donc les pneus tendres, qui étaient utilisés sur les dernières courses, qui ont très bien marché, normalement. Par contre, donc, les pneus options étaient des super soft, qui ne fonctionnaient pas dès le début. Ce qui est pourtant le but de pneus super soft, faut que ça marche dès qu'on sort. Limite, que ça commence déjà à être usé pendant le tour lancé. Donc, après, on a vu qu'en plus, les pneus super soft ont duré presque 40 tours pour certains pilotes. Ce que je trouve pas normal, quand même, pour un super tendre.
Attention, c'est Monaco.
Oui, ça reste Monaco, mais faut peut-être pas abuser non plus. C'est 40 tours quand même, avec des super softs. Et on a vu que Vettel aurait pu faire presque 60 tours avec les softs.
Bah, c'est vrai qu'au niveau des appellations, au lieu de balancer du option et du prime, que tout simplement ils gardent entre guillemets l'appellation du nom du pneu, hein, tout simplement, ça serait déjà plus simple. En plus, c'est vrai que Bridgestone faisait en sorte qu'il y avait toujours un pneu d'écart entre guillemets.
Ouais. Si.
Ah, si. Donc, le dur, au minimum, c'était toujours un moyen dur, quoi. Là, c'est vrai que dire que le soft, c'est
du coup, dur, c'est intelligent, là. Parce que là, quand on voit ce qu'ont tenu les tendres, s'ils avaient respecté la spécification d'écart.
Oui, ils ont bien fait, oui.
Vettel n'aurait eu aucun problème, hein.
Rappelons donc, Schumacher a fait 5, Alonso a fait 4. Notez quand même que Button il fait la deuxième place dans un temps comparable à Mark Webber. Donc au niveau du temps, alors c'est vrai que c'est Monaco, se dire que voilà, il y a eu une McLaren qui était dans le temps. Alors pas de la bonne Red Bull malheureusement, mais au moins d'une des deux.
Il y a du progrès. Il y a que Button qui a rejoint Vettel en ligne 13. Hein.
Et donc Vettel, 20e pole
sur une autre planète.
À égalité avec Alonso quand même.
Ça fait mal quand même.
Mais bon.
Pour Red Bull, 181e pour Renault, à une moyenne de 163,467. Ça fait lent, mais bon. Ça fait quand même 167 km/h. Attention aux flash. C'est drôle ça, tu sais, qu'il y a des radars et qu'ils oublient de les enlever.
Alors d'ailleurs, dans le petit championnat de la qualif, hein, oui. On aurait Vettel qui aurait 143 points. On aurait Weber 88, Hamilton 80 points, Button 78, Alonso 64, Rosberg 47, Massa 31, Petrov 8e 27 points, qui devance donc Michael Schumacher avec 15 points et Heidfeld avec 10 points. Derrière on a Alguersuari 6 points, Ex Aequo avec Maldonado, Di Resta 4 points, Buemi 3 points, Ex Aequo avec Kobayashi et Sergio Perez qui fait son entrée au classement cette semaine.
On va passer à la course et au top 10. Et alors, Dino, peux-tu nous donner ces pilotes qui ont été cités, qui ont participé à la course, qui ont participé au week-end?
Oui, parce que bien évidemment, on a accepté les points donnés à Perez. Hein. Lui, c'est un pilote en Formule 1, donc on prend. Donc, de la 24e à la 11e place, les pilotes sont les suivants. N'ont pas reçu de points En 22e position, Neren Kartikeyan, son coéquipier Vit Antonio Liuzzi et Jaime Alguersuari. A reçu un point Timo Glock, 21e, 20e D'Ambrosio, qui marque quand même 8 fois plus de points que son coéquipier, avec 8 points. Di Resta, 19e, 11 points, Kovalainen, 18e, 21 points, Sébastien Buemi, 17e, 27 points, Michael Schumacher, 16e, 35 points. Jarno Trulli devance donc le septuple champion du monde allemand avec 38 points, Sergio Perez est 14e, bien qu'il n'ait pas participé à la course avec 42 points, il est ex aequo avec Nico Rosberg, donc il est 13e, même pas 14e, il est 13e, alors que Rubens Barrichello est 12e avec 66 points, et donc Mister Eleven et Vitaly Petrov, 75 points. Petite indication, le vainqueur du top 10 du SAV du Grand Prix Monaco a marqué 650 points parmi vos votes.
Alors j'ai noté parmi nos votes, hein, ceux qu'on a mis mais qui sont passés à la trappe.
C'est d'accord. Alors
moi,
moi aussi, t'inquiète pas.
Alors à noter, Dino et moi, qui avons mis Barrichello, qui est rentré dans les points quand même à la fin, qui était dans les 10 premiers. Moi, je lui ai mis 10e. Dino, toi, tu l'as même mis 7e. Hein. Williams qui a fait, on peut dire, un bon week-end.
Ils sont généralement bons là-bas.
Ouais, ouais, c'est ça bon aussi. Hein. Sinon, Dino, tu as mis
alors,
Schumacher.
Juste pour dire, oui. J'ai mis Barrichello si haut.
Oui, ah oui, c'est vrai.
D'abord parce qu'il rentre pour la première fois de la saison dans les points pour la Williams, donc c'est très bien. Et en plus, c'est ce que disait, je sais plus qui hier, avant-hier dans Dimanche F1, c'est quand même assez jouissif, dès qu'on le voit dépasser Schumacher, c'est un mini-événement. Il y a cette espèce de sentiment de revanche qu'il a enfin.
Michael, il se fasse dans un agneau.
Donc voilà, c'est un dépassement assez classique. Quoique non, parce qu'il est non.
Il est de tout côté.
Je me confonds avec un autre. Il est très beau son dépassement, mais voilà, ça fait toujours plaisir de voir Barrichello lutter avec Schumacher.
Et donc tu as mis, tu as donné des points à Schumacher.
Je suis seul. Ah oh, merde.
Bah parmi nous trois, oui.
Non, moi j'ai bien aimé sa course, enfin, le peu qu'on a pu en voir.
Tu as aimé quand il a léché le muret à Sandevall.
J'ai tout aimé, moi. Mais non, ce que j'ai aimé, d'abord il part super mal, il est cinquième et je crois qu'il retourne à la neuvième place. Puis il s'offre Lewis Hamilton au Leus, proprement, comme on doit normalement négocier le Leus quand on veut dépasser. Il refait pareil un ou deux tours plus tard sur Rosberg. Des dépassements, mais vraiment, ça c'est le genre de dépassement, il faut les montrer dans les écoles de pilotage. C'est pas que ce soit des dépassements géniaux, mais c'est juste, voilà, c'est ce qu'il faut faire, tout simplement.
C'est ce qu'on attend.
Celui sur Rosberg, il est somptueux, celui sur Rosberg. Parce que...
Oui, enfin, Rosberg, voilà, il a pas fermé la porte.
On est bien d'accord.
C'est ça... Le respect entre coéquipiers était
parfait. C'est ça où c'est somptueux, c'est que quand c'est fait proprement, un dépassement, quand il y en a un qui reconnaît que bon voilà, l'autre il le dépasse et basta, ça devient très beau parce que de l'entrée à la sortie, c'est superbe. Et voilà, c'est vraiment il a fait des beaux dépassements, il a réussi à remonter quasiment à sa cinquième place avant d'être lâché par des pépins moteurs, je crois. Mais voilà, moi j'ai bien aimé Schumacher.
Mais le seul truc, c'est au départ, il a mis une bonne seconde après
ah ouais,
le
tour. Par contre, pareil, ouais, malheureusement,
c'est son départ, mais
ouais,
monstrueusement moche.
Non, on peut pas dire ça.
quand même.
Non, on peut pas dire ça.
Il a mis un dixième par titre de champion du monde à démarrer. Quoi.
Je sais pas, il devait attendre que les feux passent au vert, sauf qu'il a oublié que ça fait des années que les feux passent plus au vert. ou alors, peut-être qu'il y avait un feu, parce qu'on est à Monaco, faut pas l'oublier, il y avait peut-être un vrai feu tricolore. Lui était au rouge, c'était à l'orange.
J'imagine le truc con.
On ne sait jamais.
Non, puis il y a aussi sa défense sur Hamilton pendant quelques tours. Même si le dépassement d'Hamilton, il est magnifique.
Celui-là, il est bien.
Mais c'est le seul qui l'a fait de bien.
Même si ce qui est terrible quand même, c'est que Hamilton, il trouve moyen de le dépasser à Sandevall et de lui donner un coup de main pour lui dire ouais, t'as fait le con là. Oui, en même temps, je comprends qu'il t'aille serré. On est à Sandevall. À un moment donné, faut arrêter quoi. On peut pas passer à deux partout à Monaco. C'est pas possible. Donc là, il t'a serré. Il a pas non plus insisté à mort. Il t'a pas donné des coups de rue. Il a essayé de te dissuader. Il a vu que ça marchait pas. Bah il s'est décalé.
Hamilton, en même temps, je pense qu'il voulait passer à deux à la chicane. Combien de temps?
Non, mais sérieusement, ce week-end, il voulait passer à deux partout.
Antoine, toi, tu as donné deux petits points à Trulli.
Ouais. S'il a fait un très bon départ, il a quand même doublé Alguersuari, bon, même si c'est pas bien difficile, et son coéquipier, qui l'avait quand même devancé en qualif. Et il a fait une course tranquille derrière D'Ambrosio.
Mais très bon, fait... très bonne course des Lotus d'ailleurs.
Oui.
Enfin, des teams Lotus.
Elles ont été assez longtemps derrière la Virgin de D'Ambrosio et ont fini par le dépasser.
C'est, Team Lotus qui a le droit de s'appeler Team Lotus, mais en même temps Lotus Group a aussi le droit de s'appeler Lotus. Enfin, c'est...
Ils ont seulement le droit de s'appeler Team Lotus.
Voilà, mais, il faut que t'appelles Team Lotus.
Tout ce qui s'appelle Lotus, ils ont pas le droit. Reste à voir après les prochains accords Concorde s'ils vont pas s'appeler Caterham ou un truc du genre.
2012, ça va être Team Lotus Caterham et en 2013, Team Caterham. Et voilà.
Ouais.
Et Antoine, tu as aussi donné quelques points à Petrov.
Bah, il a fait une belle course quand même. Bon, son accident, c'est pour moi de la faute d'Alguersuari. C'est bon, quand tu regardes Alguersuari, il a un tour.
C'est la faute, ouais, de.
Oui, non,
de...
non, non,
ouais,
non.
C'est ça, Sutil.
Attends, Sutil se plante, oui. D'accord. Il fait freiner Hamilton. Mais Alguersuari, il déboule devant Petrov alors qu'il est à un tour derrière lui. Déjà, je vois pas pourquoi il se permet de passer devant Petrov. T'es à un tour, tu restes derrière. Il arrive, il a aucun ref. Enfin, bon, il arrive assez vite, d'accord, il grimpe.
Mais d'ailleurs, ce qui est drôle en plus, c'est qu'on a vu le fameux effet là d'aileron avant qui roule sur la roue arrière. On y a eu le droit, puisque le museau de la Toro Rosso a roulé sur la roue arrière de Lewis.
Et sur l'aileron.
Et sur l'aileron.
On passe à la 10e place. Avec un pilote Renault, donc si c'est pas Petrov, c'est l'autre. C'est Hetfeld, 10e. Il nous a marqué 85 points. Voilà. Bon, moi je l'ai mis 9e parce que voilà, fallait compléter le classement, hein, faut bien le dire. Sinon vous l'avez pas mis. Hetfeld qu'on a pas, je l'ai pas beaucoup vu, mais il faut dire que c'était vachement intéressant en fait devant lui, donc c'est un peu normal.
Ah, il a profité des abandons pour passer. Puis...
Ah bah oui.
Oui, voilà.
C'est tout.
On va passer directement à la 9e place. Un pilote qu'on n'a pas trop vu, sauf à un moment, hein, c'est Felipe Massa, qui est 9e pour deux petits points, parce qu'il a fait 87 points. Il finit 9e du classement. Bon. Alors, cette affaire du tunnel.
Oh, j'ai même pas mis. Mais il n'y a pas d'affaire du tunnel. Mais c'est terrible, parce que sur FanF1, tout le monde s'est mis à avoir une affaire du tunnel. Mais même Massa, il dit, non, il y a l'accrochage au leus. À partir de ce moment-là, la voiture fonctionne beaucoup moins bien. Quand je sors du virage.
Il sort par ça, là.
Mais non, mais en gros, c'est, enfin, pour moi, en gros, c'est, Hamilton lui démolit son aileron avant, il chope du sous-virage, il part à l'extérieur.
Oui, et puis en plus, comme il va à l'extérieur, il prend du marble sur sa roue, il a beaucoup moins d'adhérence. Quand il sort du virage du portier, il va naturellement à l'extérieur. Là, il est sur les marbles, c'est fini, c'est mort. À la limite, son tort, c'est d'avoir insisté plutôt que de se remettre sur la trajectoire, d'avoir insisté. Là, il n'y a même pas d'affaire du tunnel, quoi. C'est l'affaire du bus.
De toute façon, à chaque fois qu'il y a eu des soucis à ce niveau-là, si tu regardes, hein, Pérez, Rosberg et tout ça, c'est toujours parce qu'ils sont larges. C'est clair, il y a une trajectoire dès que tu sors. C'est terrible.
Bah, finalement, là où peut-être on peut reprocher des choses, c'est pas trop au DRS, mais au Pirelli.
Ah oui, dans ce cas-là, ouais, ce serait plus en effet les Pirelli et les dépôts de gomme.
Enfin, comme ils disent Pirelli, tu peux pas tout avoir, quoi. Une piste propre, ouais, et des bons pneus.
Bah ça, aucun de nous trois l'avait mis d'ailleurs. Voilà.
Mais lui l'a dit de toute façon dès le départ, quand je finis derrière Rosberg, je sais que ma course elle est foutue. Parce que je sais qu'à Monaco, dépasser Rosberg, ça va être très dur, que la Mercedes va perdre beaucoup de temps, que je vais me retrouver à 15-20 secondes, et que je vais jamais les retrouver, les 15-20 secondes. Donc il sait déjà à ce moment-là qu'il se bat minimum pour la 5e place.
De toute façon, clairement, être derrière une Mercedes ce week-end, t'étais dans la merde.
Oui. Par contre, être devant une McLaren, c'était pas mal, hein.
On va passer à la 8e place, avec le pilote Force India, Adrien Sutil. Moi, je l'ai mis 7e. Antoine, tu l'as même mis 6e, carrément. Et toi, Duno, tu l'as mis 10e.
Une belle course bien aidée par les deux voitures de sécurité. Il a eu de la réussite, quoi. Après, il a fait son boulot un peu agressif, mais bon, il a eu énormément de chance. C'est la première voiture de sécurité, il fait son arrêt. Ensuite, il a son accident, bah, l'incident qui a provoqué le drapeau rouge.
Au carambolage, hein.
Ouais, au carambolage, et c'est là qu'il va changer son pneu qui a été déchiré, quoi. Du coup, il perd pas de temps à ses deux arrêts. Forcément, ça fait 50 secondes en moins sur le temps final, bah, ça aide.
Même s'il finit à un tour de Lewis Hamilton.
On va passer dans ce cas directement à la 7ème place.
Ouais.
À noter que je n'oublie pas, Sutil, combien de points il avait marqué? Il avait marqué 120 points. Faut savoir que la 7ème place, il avait marqué 146 points. Que Dino lui a mis une 9ème place. Que moi, je lui ai mis une 8ème place. Qu'Antoine, lui, il l'a même pas noté. Et attention, parce que c'est le débat, partie 2. À la 7ème place, Lewis Hamilton. On a parlé de son comportement, maintenant on va parler de sa course.
Course à oublier pour lui, j'ai envie de dire.
Week-end à oublier pour lui.
Bon, pour moi, il s'est saccagé son week-end samedi. Il a dit, bon, bah, je vais attaquer comme un bourrin, je m'en fous de ce qu'il y a devant, il faut que je rattrape Vettel.
Avec en plus la conviction, de, comme il l'a dit dans ses déclarations après la course, de pouvoir posséder la piste, de pouvoir être le meilleur. Donc une certaine déjà, l'idée de se dire, quoi qu'il arrive, de toute façon personne ne me résistera.
Alors que Button l'a allumé, même dans les temps autour, il l'a totalement
allumé. Oui mais
allumé.
C'est pareil, il a été, c'est pas la même course non plus. Button il a à un moment donné quand même été en tête, ce qui n'est pas le cas d'Hamilton.
Non mais ils étaient pas dans le trafic tous les deux à un moment. Pourtant ils avaient les mêmes pneus. Oui, ils ont quand même tous les deux allumé.
Donc, double pénalité quand même pour Hamilton. Un drive-through suite avec ce qui s'est passé avec Massa. Même si on peut se demander, pour le coup...
Allez, pas justifié.
C'est vrai qu'il... Ouais. C'est quand même... Celle-là, pour le coup, il avait raison de dire que c'est
on
pas...
On voit bien, alors, c'est ce qu'on peut lui reprocher... Voilà, c'est toujours un peu pareil
sur
les... Voilà, c'est l'optimiste. Je sais pas si tu te souviens, Shinji, c'est l'une des toutes premières émissions du SAV. Je crois que c'est le Grand ouais. Prix d'Italie 2007. Donc vraiment l'un des tout premiers SAV. D'ailleurs, ça s'appelait encore le Dars Autocritique à l'époque. J'étais tout seul, je faisais des monologues d'une demi-heure. Et où il avait fait une course où il avait poussé tout le monde dehors. Enfin voilà, il était parti encore une fois, il était parti loin derrière. Et puis absolument que personne lui résiste. On s'était retrouvé avec à un moment donné où après la première chicane, il dépasse. Je crois que c'était Glock qui était sur Toyota. Il dépasse Glock. C'est limite si Glock, il est pas obligé d'aller sur l'herbe à l'entrée d'une grande courbe parce que son Altesse Lewis passe. Ce qui est un peu embêtant avec Lewis, c'est que c'est vrai, faut reconnaître, c'est un pilote extraordinaire, c'est un attaquant de grand talent, qui a un flair et qui a une maîtrise dans le dépassement qui est peut-être supérieure à la majorité des pilotes, en tout cas des top pilotes. Maintenant, on sent que la conjugaison entre un excès de confiance en lui et en même temps quand il est en difficulté, mal placé et qu'il faut qu'il remonte, il se met à faire mais n'importe quoi en piste. Là, son début de course, il est intéressant, il fait des belles manœuvres, il est à la limite, on le sent à la limite, on le sent mort de faim.
Dès qu'il prend le drive strong.
Mais même avant quoi, c'est-à-dire que sur le dépassement de Massa, il se décale comme on fait d'habitude au Leus. Il se décale pour se porter à côté. Bon, le problème c'est que il y a à ce moment-là une Toro Rosso devant qui va ralentir la Red Bull de Weber, ce qui fait que Weber va à l'extérieur. Donc du coup, malheureusement Massa, il a pas d'autre choix que de se replier à l'intérieur. Et là, on les voit avant les trois voitures qu'il y a devant. Lewis quand il se déborde à l'entrée du Leus pour descendre, il les voit quand même les deux Red Bull. Il doit s'arrêter à ce moment-là. Il doit se dire c'est pas possible, ça passera pas. C'est ce qu'a dit Stewart. Stewart, dans ses déclarations, il dit un pilote doit aussi réfléchir non seulement à comment lui va dépasser, mais comment l'autre va réagir. Quand il commence déjà sur Schumacher à s'énerver parce qu'il lui a entre guillemets fermé la porte, oui, en même temps, t'es à Sainte-Dévote. Le mec, il a pas le choix. Quand t'attaques à Sainte-Dévote, tu sais que ça va passer au chausse-pied. Faut bien que t'acceptes derrière que le mec, il va en plus laisser faire. Donc c'est toujours un peu le problème, c'est qu'il est toujours super optimiste. Et l'accident de Maldonado, c'est le summum. L'accident de Maldonado.
Ah là, Maldonado, là par contre, c'est complètement.
C'est typiquement le même dépassement que sur Schumacher. Sauf qu'avec Schumacher, ça fait déjà 3 tours qu'il lui court derrière et qu'à chaque fois il a le DRS. Là, sur Maldonado, on vient de reprendre. On est en pneu froid. On est sur un pilote qui est pas forcément non plus très habitué à se battre avec des Hamilton et compagnie. Qui est pas non plus le même calibre que Schumacher, en tout cas sur des courses comme ça. Même s'il est très bon à Monaco. Et surtout, on n'a pas le DRS à ce moment-là. Donc il n'y a pas non plus cet élan un peu supérieur et il se met à se jeter. Certes c'est le même dépassement, mais il peut pas non plus déjà s'est passé au sauce-pied avec Schumacher. Il peut pas espérer derrière que ça se passe aussi bien. Voilà, à un moment donné, faut aussi qu'il accepte qu'être un grand attaquant et faire le spectacle, ça inclut aussi de se mettre régulièrement en danger. C'est ce qu'a dit encore une fois Stewart. Tu t'exposes. Et moi, j'ai vraiment tendance parfois à penser que Lewis, il accepte le côté spectacle, mais le côté les autres autour, faut que j'y fasse aussi attention, faut que je les anticipe, il les oublie. Et là, encore une fois, ce qui est dommage, c'est qu'il a eu du bol. Il a pas fini dehors, rien. Il arrive à l'arrivée, il finit sixième, il a encore eu du bol. Même pénalisé, il n'est pas pénalisé.
Ouais, il a pas
perdu. Donc voilà, c'est quand même.
Qui lui est déjà arrivé cette saison.
C'est pas en Malaisie.
Non, puis là.
Non. C'est Alonso qui se prenait une pénalité qui a rien eu.
Et Hamilton,
passait derrière Kobayashi.
Ah, c'est ça.
Pour une seconde ou une seconde et demie, je crois.
Non, puis ouais. Là, c'est clair qu'avec Maldonado, c'était certain qu'il y aurait une pénalité. C'était certain. Parce que dans cette situation qu'on a vu des dizaines de fois, les commissaires, ils appliquent toujours le même principe. C'est, entre guillemets, ils sont pour le défenseur. Le défenseur, entre guillemets, a raison d'essayer de fermer un peu pour éviter de se doubler. Et c'est à l'attaquant de bien faire son dépassement et de le faire dans de bonnes conditions. C'est clair qu'il y aurait une pénalité.
Mais il a voulu aller trop vite. Tu peux pas aller trop vite à Monaco.
À Monaco, faut être la force tranquille.
Ouais, voilà. Mais c'est un peu. Ouais. D'ailleurs, il le disait ce week-end sur Dimanche F1. C'est un peu le défaut de tous ces nouveaux circuits. C'est Bourdais qui disait ça. Il dit aujourd'hui, les pilotes, ils pilotent différemment parce qu'ils savent très bien que dès le départ, les jeunes quand ils arrivent, ils savent très bien que ils peuvent déjà aller à la limite. De toute façon, derrière, il y a du bitume. Donc, les mecs sont déjà habitués, dès le départ, à toujours prendre trop de risques, toujours aller à la limite, à la limite, à la limite. Et il faut se rappeler que Hamilton, il est de cette génération-là. Et que l'an dernier, on a vu aussi des erreurs avec Sébastien Vettel, le même type d'erreur, et il est aussi de cette génération-là. De cette génération où, sur les circuits, voilà, ils ont tendance à prendre trop de limites, à croire que c'est trop facile, que c'est trop rapidement joué.
Sauf que Vettel a clairement mûri. Cette année.
Il n'est pas non plus aussi dans les mêmes circonstances qu'Hamilton. Je pense que Hamilton, il fait pas la même course, il est devant. Vettel, il part devant à chaque fois, donc c'est pas pareil.
Mais ouais, Hamilton, faut qu'il se réveille, quoi.
Ouais. On passe à la sixième place.
Excuse-moi, je vais dire, mais c'est dommage, quoi.
C'est vrai que c'est rare, genre, parce que on l'a déjà vu du grand Hamilton. C'est pas comme si on l'avait jamais vu. On sait que parfois il a fait de très belles courses où il était attaquant, mais où, entre guillemets, c'était clean.
Comme en Espagne.
Voilà, et il est capable de faire des trucs magnifiques. C'est en effet, c'est rageant.
En Espagne ou en Chine, il a été magistral.
Ouais. Faut juste qu'il arrête ses conneries, c'est tout. On passe à la sixième place.
Ouais.
Avec quelqu'un qui n'a pas fini la course, malheureusement.
Pérez.
Non. Ça aurait été énorme que Pérez soit dans le classement. Non, c'est Maldonado. Donc, sixième. On lui a tous donné des points. Dino et moi-même, on l'a aussi mis sixième. Et toi, Antoine, tu l'as mis huitième.
Donc, si t'arrives, Antoine,
c'est de...
Maldonado, quand même. Oh.
Ouais. J'aurais fait comme d'habitude, je l'aurais même pas mis dans le classement.
Oui, voilà.
Mais là non, il a fait une belle course. Il y a pas
très belle. Ah oui.
Il sauve quand même un beau dépassement sur Schumi, je crois, à un moment. Ou c'est sur Rosberg, je sais plus.
En même temps, il y a plein de monde qui ont déplacé les McLaren ce week-end.
Les Mercedes. Il me semble que c'est Massa qui le passe. Et, lui, il arrive opportuniste. Il fait un dépassement superbe. Et il méritait,
c'est
franchement.
Au niveau du bureau de tabac, quelque chose comme ça.
Si.
Ouais, c'est ça, ouais.
Mais il méritait clairement de finir dans les points et de marquer ses premiers points, ouais. À ce coup-là, je suis déçu pour lui.
Non, puis c'est bien parce que le début de saison a été quand même très compliqué pour Maldonado. Et voilà, il montre que c'est pas que une valise à billets. On va donc passer à la cinquième place.
Ouais.
Est-ce que j'ai donné le score de Maldonado?
Non.
Pourtant, c'est un beau chiffre tout rond.
Il a fait 200 points.
Vous voulez t'en délire?
J'ai envie de dire un beau score pour une belle course.
Voilà. C'est plus que tout ce qu'il a marqué depuis le début de saison, quand même.
Oui.
C'est sa première course potable en même temps. Donc...
Ouais. Pardon, à la cinquième place. Lui, il a marqué 238 points. Et lui, par contre, il avait marqué beaucoup plus de points auparavant. C'est un de ses plus mauvais scores, au contraire. C'est Mark Webber, qui n'est que cinquième cette semaine. Marc qui a pas eu de bol au niveau de ses arrêts, enfin de son arrêt.
Il a été transparent.
Il a fait une course à la Rosberg.
Le seul fait qu'on a vu de lui, c'est son dépassement sur Kobayashi. Et le problème à Red Bull, avec les mécanos Red Bull.
Bah, globalement, ouais, c'est ça. Gros cafouillage d'ailleurs chez Red Bull, ils nous avaient pas habitués à ça.
Bah, ils ont sorti des... En fait, à cause de l'espionnage de Ferrari, enfin, présumé, c'est en gros, ils ont voulu rappeler les deux pilotes dans le même
ouais,
tour et ils avaient sorti les 8 pneus. Sauf que, en fait, Vettel, il lui avait mis... au départ, il était prévu qu'il devait partir en super tendre. Donc, son erreur, enfin, sa victoire d'un côté, c'est aussi un coup de bol là-dessus. Donc, ils étaient en train de mettre les super tendres et ils ont fait « Merde !» Les autres, ils mettent les tendres. Donc, hop. Puis du coup, ça a enchaîné sur Mark Webber.
Il dit « Moi, je suis arrivé, je me suis installé, je suis resté assis, j'ai attendu que les mecs s'installent. » Voilà.
Il a perdu 11 secondes. Techniquement, quand tu regardes, pour moi, il aurait rien fait de plus. Il aurait juste eu une course tranquille, il aurait pas eu de dépassement à faire.
Et c'est ça que je voulais
il avait voir. Pas le rythme.
Parce que justement, moi, je voulais savoir, avant son arrêt, l'écart qu'il y avait déjà avec les trois de devant.
Il y avait 15 secondes, il me semble. Ah, le truc, c'est après, bon, il s'est fait passer par Alonso, quoi.
Ouais, mais bon, au moins, il peut suivre.
Ah, non, il suivait
voilà,
pas.
Donc c'est ça le problème.
C'est ça qui m'a paru bizarre, c'est, il était sur un rythme à l'économie de pneus. Parce que tu voyais ces temps, bon, c'était clairement de l'économie. Puis, il rentre en même temps que Vettel. J'ai pas compris.
Au 16e tour, il y a déjà entre 15 et 20 secondes, quoi. Il y a.
C'est avec le drapeau rouge, il aurait pu dépasser Sutil et Kobayashi, pareil. Pour moi, ça a pas vraiment changé grand-chose à sa course.
Envie de rajouter quelque chose sur Webber ?
Non.
On passe alors à la 4e place ?
Ah oui.
Et j'ai envie de dire, si Webber, vous l'avez mis 5e, logiquement, 4e d'après vous, c'était qui ?
Kobayashi.
Oui. Kobayashi, tous les trois on l'a mis 5e, hein, puisqu'en fait on a mis Webber quand même 4e. Mais voilà, au classement final, c'est Kobayashi qui est devant.
Le meilleur des autres.
Ouais, mais Sato Kamikaze a dû le mettre premier.
À noter donc que si Webber est marqué 238 points, Camus en a marqué 318. Donc les auditeurs l'ont bien mis devant.
Ouais, t'avais pas compté sur nous cette semaine.
Ouais. Et pourtant, vous savez qu'on l'aime bien Camus.
On l'adore Camus.
C'est notre chouchou. Enfin, c'est un de nos chouchous.
Ouais, voilà, faut pas pousser, c'est dit non plus. Wow, wow, wow.
Attends, c'est un sans-abri en ce moment.
C'est vrai.
Oui, j'ai pas trop suivi cette histoire.
Mais en gros, il a vendu son appart à Paris.
Ça fait un bail, ça.
Il était en Allemagne. Oui, non, mais il était en Allemagne, mais sauf que l'équipe, Sauber veut qu'il se rapproche de la Suisse.
Ah, d'accord.
Non, Camus, comme toujours, il fait de belles courses. Il
est aidé par la voiture de sécurité.
Ouais, enfin, lorsque la voiture de sécurité sort, il est déjà 4e. Hein.
Oui, parce qu'il a pas changé de pneu encore.
Oui,
ah, dans ta gueule, tu me dis.
Allez, attends, j'ai le graphique là devant moi, tu vois. J'ai pris le graphique de Dino, tu vois. C'est bon, il fait 32 tours avec les pneus durs, et après il fait comme Vettel, sauf qu'il le fait avec les super tendres. Ouais. C'est quand même d'un certain niveau.
Sachant que, en plus, depuis une saison, la Sauber est très économe avec ses pneus.
Ouais. Alors que lui, il n'est pas économe en dépassement.
Ouais, voilà. C'est ça qui est terrible, c'est qu'il arrive à économiser ses pneus tout en dépassant.
Bah, il sait bien faire attraper sur la fin.
Oui, parce qu'il a les. Ils ont des gommes, quoi.
Non, ça fait plaisir quand même. Encore une fois, j'ai plus quoi dire en fait sur Camille parce que toutes les semaines on dit la
même
chose.
Mais en plus, cette semaine, je reconnais, je l'ai mis 5e. En dehors de son dépassement par Webber en fin de course, qui est d'ailleurs magnifique son dépassement. J'avoue, comme Kobayashi, j'étais pas trop vu, que ce soit en quali, que ce soit en course, j'étais pas trop vu. Mais j'ai mis 5e parce que quand même, la place, elle se mérite, quoi. À Monaco, c'est un 5e.
Moi, j'aurais bien voulu voir Pérez, quand même. Ce qu'il aurait donné.
Ouais, c'est vrai. Peut-être était pas mal, quand même.
Ouais.
Non, mais en même temps, tu vois, par rapport à Hamilton, c'est la preuve que... On l'a peut-être moins vu Kobayashi faire doubler. C'est, tu vois, un peu la différence. C'est que, finalement, voilà, on est à Monaco. Bon, bah...
Il a doublé que c'était, non ?
Ouais, mais voilà, il a doublé, mais il a été prudent, on va dire. On l'a pas vu non plus tenter des trucs de malade, comme ce qu'il fait d'habituellement. Mais habituellement, il peut se le permettre, puisqu'il n'y a pas des rails. Là, voilà.
Le problème, c'est que pour Kobayashi, une 5e place, c'est un super résultat. Pour Hamilton, une 5e place, c'est un mauvais résultat.
Ah non, on est d'accord.
Donc oui. La motivation est pas la même. C'est-à-dire une fois qu'il est 5e, oui. Kobayashi peut se permettre d'être économe. Hamilton, quand il est 5e, il n'a pas forcément envie d'être économe.
Genre quand il est 2e, il attaque comme un sauvage.
Oui.
Autant, pour viser la victoire, il va devoir attendre le Canada et après c'est fini.
Je suis sûr que c'était un plan prémédité de la part de Vettel. En Espagne, il l'a laissé exprès. Je dis, vas-y, viens, vas-y. Ouais, dis-toi que t'es plus près de moi, que tu vas m'avoir, etc. Tu vas voir, à Monaco, tu vas faire moins le malin. Il est trop fort, c'était.
Dans ce cas.
Bah attends, je suis sûr. Regarde, il était juste derrière la voiture de l'accident. Moi, je dis, la Red Bull, elle a un laser. Il a crevé le pneu de soutien.
La Red Bull a beaucoup de secrets, mais qui sait, peut-être qu'il y a un laser, en effet, parce que plus rien ne m'étonne maintenant, de toute façon, avec cette Red Bull.
D'ailleurs, elle devrait être motorisée par Aston Martin.
On va peut-être passer au podium dans ce cas.
Est-ce que c'est vraiment intéressant de passer au podium?
Il y a 5 places cette fois-ci.
Moi, je dis c'est intéressant. Parce qu'à la 3e place, il a marqué 520.
C'est un scandale.
Et faut dire que l'équipe du SAV, globalement, l'a mis premier. Là, ça vous aide pas, hein, pour l'instant. Vous dites qui ça peut bien être.
Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que vous, apparemment, vous avez pas voulu le mettre premier.
Tout ça à cause d'un drapeau rouge.
Voilà.
On vient d'évoquer Vettel, et ça tombe bien, puisque c'est Vettel le 3e.
Non!
Sa pire place de l'année.
Oui, je suis pas sûr.
Si, je crois que c'est la prochaine.
Ouais, 25, 12, 25, 18.
Il a fait 4e.
C'était en Chine. En même temps, c'est la seule course qu'il a pas gagné. Forcément.
C'est terrible, c'est quand même.
Mais maintenant, c'est gagne que même quand il gagne, il est 3e.
Du drapeau rouge.
Ouais, bah oui. Mais en même temps, bon. S'il n'y avait pas eu le drapeau rouge, il aurait peut-être quand même gagné, parce que
c'est ça, c'est que tout le monde est parti du principe qu'il avait été sauvé par le drapeau rouge. Non, c'est le drapeau rouge lui a facilité la tâche. Maintenant, on est incapable de dire s'il a vraiment été sauvé par le drapeau rouge. On est quand même à Monaco, c'est pas une évidence qu'il va doubler, quoi.
Non, c'est quand même le gars qui a fait 60 tours, il y en a, ses tours ont été dans les 4 même dixièmes tout le temps. Il était une 19-2 et une 19-6 tout le temps.
C'est vrai que le drapeau rouge, entre guillemets, fait passer ses chances de victoire, on va dire, de 80%, hein, quand même.
À 99.
Voilà, même à 100.
Non, enfin, du coup, il y a toujours un risque à Monaco.
Oui, il y a toujours un risque à Monaco, mais voilà, ça, on passe de 80, 85 à 99 d'un coup.
Ça fait passer les chances d'Alonso de gagner 15-0.
Oui.
C'est tout.
Avec Pirelli, d'ailleurs, qui s'est plaint, puisqu'on a vu que, en fait, on n'a pas le droit de toucher aux voitures. Mais on peut changer.
Non, ils ont même le droit de toucher aux voitures, puisque Hamilton, il a refait quasiment le train arrière.
Bah, ils ont changé l'aileron pour des questions de sécurité, hein. Ils ont juste touché à ça.
Normalement, ils auraient dû le sortir.
Bah oui.
Enfin,
normalement, c'est les commissaires qui ont été cool, hein. Normalement, ils avaient pas à toucher l'aileron, et lorsqu'ils repartaient, ils devaient repasser dans les stands, hein. C'est parce que pour des questions de sécurité, parce que c'est vrai que le truc était vraiment arraché, qu'ils ont eu l'autorisation. Et d'ailleurs, on voit quand ils sont en train de réparer, t'as les commissaires de la FIA qui sont juste derrière pour bien vérifier qu'ils ne touchent qu'à l'aileron.
Dommage pour Maldonado.
Ouais, mais c'est vrai en plus.
Bon, ça aurait été plus dur à réparer.
Comme quoi, il peut pas se plaindre de la FIA, parce que sur ce coup, ils ont été extrêmement cool, hein, de les autoriser à toucher à l'aileron. Sinon, la course de Vettel.
Sublime.
Ah ouais.
Ouais.
Ah ouais. Ah ouais.
Il y a rien à dire. Le gars, on savait pendant les essais libres qu'il arrivait à faire de l'endurance en restant à des temps rapides quand même, et super régulier à faire des très longs temps. Ils avaient dit 40 tours. Là, il en a fait 60. Enfin, un tout petit peu moins de 60, en étant tout le temps dans la même seconde.
Mais bon, s'il avait fini la course, il en aurait fait plus de 60, quoi.
Ouais.
Et c'est vrai qu'il aurait sans doute pu tenir avec un seul arrêt quand même.
Mais il y en a qui l'ont fait tenir avec un seul arrêt. Enfin. En même temps, faut toujours exclure le changement de pneus, enfin. Mais ils sont plusieurs à avoir tenté les un arrêt.
Bah, Soutil, oui. Toba.
À Monaco, c'est une stratégie payante. Il a compris là où il a été malin. C'est d'ailleurs ce qui est étonnant, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont fait rentrer Button si tôt. Button en tête, le premier qu'ils le fassent rentrer avant, d'accord. C'est à eux de jouer leur carte puisqu'ils sont pas devant. Le deuxième, ils sont devant. Faut attendre ce que fait Button. Faut attendre de voir ce que fait Vettel. Si Vettel rentre, à la limite, tu rentres le tour d'après. Ou alors, tu fais attention à ce qu'ils font dans le garage. Si tu vois qu'ils commencent à se préparer, tu sors pour être en même temps que lui. Là, ils sont rentrés tout seuls comme des grands.
Bah, surtout qu'en plus, Button est quand même économe avec ses pneus, quoi.
Bah oui, en plus, ça vaut le coup, lui, avec lui, de tenter ça. Hein.
Là, il a préféré attaquer. C'est pour ça que Vettel n'est pas rentré, d'ailleurs. Il y avait trop de retard sur Button.
Mais la semaine dernière, il y avait le débat sur est-ce que le Grand Prix d'Espagne est une course de référence. C'est une belle course. Mais si on doit prendre une course de référence, c'est celle-là. Parce que Monaco, ah oui, celle-là est plus faible les deux, comme en Espagne. Il est sous la pression, 10-15 tours, enfin au moins 15 tours sur Fernando et au moins 5-8 tours sous la pression de Button. Il arrive à tenir
plus la gestion de
avec
la
des pneus qui sont en fin de vie là où les autres sont quand même en bien meilleur état. En plus, à ça s'ajoute l'intelligence stratégique qu'il y avait déjà en Espagne, mais qui est encore plus évidente aujourd'hui, et une paire de couilles quand même, enfin, je suis obligé de le dire comme ça, mais une paire de couilles, de se dire, il y a les deux autres derrière qui vont changer les pneus, moi, non, je vais pas profiter de la safety car, je vais essayer de finir. Il se dit ça, on est au 16e tour, enfin, au 30e tour, 32e voilà, au 32e tour. Ces pneus, ils ont déjà 16 tours dans la bulle, quoi. Je me demande si c'est pas un mec qui, en ce moment, voit très bien que la RB7 domine, et qu'il se met pas volontairement dans des situations un petit peu de défi. Se dire, tiens, si ça là, je la finissais avec les pneus,
de même temps. Oui, c'est ce que tu
disais.
Mais
il en a pas
besoin. J'en suis venu à me dire, mais voilà, ça se trouve.
Est-ce qu'il trouve pas ça trop facile?
Il trouve pas ça trop facile et qu'il veut un peu plus d'action et que du coup, bah, il part sur des stratégies comme en Chine. En Chine, il part sur une stratégie. Voilà, est-ce qu'il se dit, voilà, je vais peut-être pas essayer de, je vais faire des tests en termes de stratégie. Je vais voir ce que ça peut donner. Il prend des risques. Puisqu'il sait très bien que si tout se passe bien, normalement, il gagne. Vu que la voiture, elle est très bonne et que lui, il est au seul.
Sont là pour moi, Vettel, il est dans, il domine totalement de la tête et des épaules tout le monde.
Ah oui.
C'est, il n'y a pas que la voiture qui joue. La voiture a un rôle, certes, mais la gestion qu'il a, c'est quand même énorme. Il y en a qui le comparaient à Schumi. Perso, je le vois quand même un niveau au-dessus. Parce que comparé à Schumacher, déjà, il y a le charisme. Vettel arrive plus à fédérer tout le monde autour de lui, tout ça. Enfin, je trouve, personnellement. Et après, t'as la difficulté autour. Les titres de Schumi entre 2000 et 2004, il y avait personne vraiment en face.
Oui, c'est ça, en plus.
Alors que l'année dernière, Vettel, il fait quand même l'inverse de l'année dernière. L'année dernière, il a été une fois en tête du championnat. C'est à la fin.
À la fin.
Là, bon, est-ce qu'il ne va pas être en tête du championnat un jour? Je commence à avoir des doutes.
Bah, moi, j'ai regardé, c'est quand même sa 5e victoire sur 6 courses.
6e podium.
J'ai regardé, sur les 30 dernières années, le nombre de victoires minimum pour être champion, on va dire. Et le chiffre magique, c'est 8. Sur les 30 dernières années, quand un pilote a 8 victoires dans la saison, ce qui représente quand même pas mal, tout pilote qui a eu 8 victoires a été titré à la fin de saison. 7, c'est arrivé qu'il soit pas titré, mais alors c'est dans des années, c'est 88, voilà. 2005, c'est 2006, ou bon, 2005-2006, c'est pas dans la même équipe, mais il y a quand même deux pilotes qui clairement dominent la saison à chaque fois. On peut même se dire qu'à 7, ça va être quasiment bouclé, et il est à 5.
Bah, tu regardes, Alonso a dit, en gros, Silverstone, si c'est pas mieux, on abandonne.
Et c'est là où on comprend aussi qu'Hamilton se mette la pression ce week-end, parce qu'il sait très bien que le résultat qu'il fait, il est mauvais. Parce qu'il sait très bien qu'il va pas falloir lui laisser le moindre point, ou en tout cas, en perdre le moins possible. Dans l'hypothèse, parce qu'on a vu des débuts de saison, voilà, je sais plus où on demandait, mais depuis quand on a vu ce début de saison? Bah, déjà 2009.
2009.
Voilà. 2009.
Et
on sait comment la deuxième partie de saison a été. On a aussi, je crois, 2006, où Alonso domine le début de saison, puis en mi-saison, la Ferrari revient. Red Bull ne peut pas forcément être à l'abri derrière. Et c'est là où, dans sa thèse, il se dit, mais je perds déjà une occasion de reprendre des points, ou en tout cas de pas en perdre trop. Là, il perd, pas loin de 20 points, il se retrouve à plus de 2 victoires, mais c'est même en
58 points.
C'est ce qui est énorme en début de saison. Le bilan comptable commence à être dur.
Bah, de toute façon, il va y avoir 4 courses où la Red Bull va être en difficulté.
Oui.
C'est le Canada.
Oui.
Singapour. Et encore, ça reste à voir.
Encore,
non,
ouais.
Pas Singapour. Monza.
Ouais.
Et le Grand Prix d'Inde. Avec l'énorme ligne droite. Ouais, et c'est plutôt des virages lents.
La Corée peut-être aussi. Enfin, même si c'est
mis. Laquelle?
La Corée. Même si.
Bah, l'an dernier,
La Corée, le deuxième secteur est énorme pour la Red Bull.
Même quand tu prends, l'Inde, je suis pas sûr, parce que quand tu prends Abu Dhabi, c'est pareil, c'est pas non plus des gros virages. Et elle était au niveau de la McLaren l'an dernier. Enfin, la Red Bull est au niveau de la McLaren sur ce circuit-là. Donc.
Si à Silverstone, en effet, il est déjà à 6, 7 victoires. Ouais, techniquement, il pourrait quasiment...
Le truc, c'est... Lui, quand il gagne pas, pour l'instant, il est au minimum deuxième.
Oui, si voilà.
Puis faut quand même se rappeler que quand on parlait tout à l'heure de 2009, vers la fin de saison, Button avec la Brown, il faisait des 6e, 7e, 8e place.
C'est même pas sûr voilà, que ça. Ouais.
Et encore, on n'a pas réussi à le rattraper. Alors là, t'imagines.
Et il gérait. Parce que c'est ça, en plus, le truc, c'est que, vu le profil du Zigoto, parce qu'il pourrait, il pourrait nous faire un truc, ouais, grosse domination, puis après, on va dire, allez,
ah, c'est
on
pas
gère.
Son genre.
C'est pas le genre.
Mais c'est pas son genre. Lui, s'il peut gagner les 12 prochaines, il gagne les 12 prochaines, hein, y a pas de souci. Hein.
Après 2009, c'est pas pareil, parce que la Brown, déjà, il y avait le double diffuseur que les autres ont repris. Ensuite, ils ont pas eu d'évolution pendant la deuxième partie de saison, alors que maintenant, t'imagines une course sans évolution.
Et puis c'est pas le même budget, enfin, c'est pas la même structure. C'est là où on peut se dire que le championnat est paf. C'est pas fait, mais le championnat est pas loin d'être mort.
C'est pas que, voilà, c'est ça, c'est les deux, trois prochaines courses, en effet, s'il continue sur ce rythme-là, si en Grande-Bretagne il est à 7-8, bon, quoi.
Déjà, si au Canada il arrive à faire deuxième,
ouais,
on va dire.
Voire premier, parce qu'il.
Oui, voire premier,
faut pas.
Si on connaît le bonhomme, hein, il est capable de tout. En plus, le Grand Prix d'Europe, Vettel, l'année dernière, il l'a gagné magistralement. Grande-Bretagne, bon, ça a été un peu plus dur.
Ouais, mais il a déjà gagné, je crois.
Bah, de toute façon, Silverstone, Vettel, il a quand même... Attends, il avait crevé dans le premier tour, il était remonté 6e voilà. Ou 7e. Le coup, tu gâtes, techniquement...
En fait, je crois que le truc, c'est... Il pourrait ne pas être, en fait, tu sais, titré aussitôt qu'un Schumacher, ou par exemple.
À cause du barème des points.
Oui, à cause du barème des points, et parce que comme il y a plus de grands prix, il y a plus de possibilités de faire de points. Voilà. C'est juste ça, en fait.
Oui, mais tu regardes, le truc, c'est que du coup, si Weber, il arrive à remonter son niveau.
Oui.
Pour, imagine, Vettel arrive à garder le même cap. Weber arrive à remonter son niveau pour garantir les deuxièmes places. Le titre constructeur et titre pilote plié en septembre. Imagine après la RB8, comment elle va être bonne.
Ah ouais.
Parce qu'il n'y a plus besoin de développer la RB7.
Ah bah oui. On va peut-être en profiter, on va passer à la deuxième place. C'est Alonso avec 602 points. Beau score quand même. Deuxième. Il a fini deuxième.
Ouais.
Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est un peu normal puisque les pneus étaient très soft ou super soft. Parce que le gros problème de la Ferrari, c'est plutôt les pneus durs.
Bah, les nouveaux pneus durs.
Ah, oui. Après, il fait...
Oui, bien sûr.
Parce que bon, les anciens pneus durs, ça allait. Les nouveaux, ils les aiment pas beaucoup.
Il fait une course normale, quoi. S'il prend un bon départ, et c'est fini. Après, pour moi, il gagne pas de place en course. Hein.
En même temps, Monaco, enfin, ce sont rares les pilotes qui gagnent des places en course aussi. Hein.
Oui.
Ah, il peut pas gagner cette place tous les ans. Non, plus,
hein. Non mais il fait une belle course sans être extraordinaire.
Bon. Je suis pas d'accord. Sans être extraordinaire. Alors après, c'est le même que nous dire, ah ouais, Button, il a été extraordinaire.
Faut dire, déjà, tout le week-end, Alonso a fait très bon temps aux essais.
Avant de se ramasser en qualif.
Il se ramasse. Bon, voilà, il fait que 4, donc il ne fait que 4.
Faut aussi rajouter quelque chose, une donnée importante de la qualif, c'est qu'en qualif, on voit bondir une écurie qu'on n'attendait pas jusque-là dans le début du week-end. En tout cas, moi, personnellement, je ne les attendais pas. C'est McLaren. Qui ont été très discrets le vendredi, le jeudi, ils ont bien caché leur jeu. Le samedi matin, moi j'ai pas vu la séance, donc du coup, je sais pas. Mais en tout cas, moi quand je suis arrivé le samedi après-midi, je m'attendais pas vraiment à ce que la McLaren soit si forte. Et bam, bam, Q1, Q2, Hamilton fait meilleur temps. À partir de ce moment-là, déjà qu'ils visaient une troisième place derrière les Red Bull, là ils commençaient à viser tout automatiquement une cinquième place derrière les Red Bull et les McLaren.
Ouais.
Enfin, il aurait été cinquième sans le crash de Pérez.
Ouais, bah c'est ça, voilà.
Après, on finit deuxième parce que Button se plante dans la stratégie.
On peut aussi dire qu'il finit deuxième parce que aussi il a une belle inspiration sur la safety car, que voilà, enfin c'est.
Non, pour une fois, ils font une bonne course. Bon, voilà, il y a toujours, on sait qui est devant, quoi, mais.
Mais quand même, ce qui est terrible, c'est qu'il y en a. Je suis convaincu. Il y en a plein qui vont dire, ouais, moi je suis sûr que Button il aurait pu gagner, en oubliant qu'au passage, entre Button et Vettel,
il y avait Alonso.
Le mieux placé quand même pour gagner, c'était Alonso.
En même temps, Alonso il l'a dit après, hein. Il a dit, moi j'avais rien à perdre, hein. J'attaquais, on se plantait, j'avais rien à perdre.
Et donc on va passer à celui qui a gagné, que certains ont dit qu'il pourrait gagner, mais comme tu l'as dit, il y avait quand même Alonso devant. hein. Donc tu l'as dit au début du top 10, il a marqué 650 points, c'est Jenson Button.
Ouh, la foule est en délire. On l'a mis combien, Shinji, Jenson?
Eh bien, moi et Antoine, on l'a mis deuxième.
Mais derrière qui?
On l'a mis troisième.
Vous l'avez mis bah, devant Alonso?
Derrière Vettel. Devant Alonso, derrière Vettel.
Mais pourquoi?
En fait, c'est surtout parce qu'il a démontré une qualité qu'on ne pensait pas qu'il aurait.
Ouais, l'attaquant sur le...
Il
sur
fait
le...
rapide.
Voilà. C'est, en gros, d'habitude, il fait tout le temps des courses d'endurance. Et là, il a démontré qu'il pouvait faire des courses sprint hyper rapides. Après, un mauvais choix stratégique.
Voilà, c'est ça. C'est surtout lui qui, à la limite, quand il voit quelqu'un rentre, s'il veut se calquer sur une stratégie, peut se permettre, puisqu'il est plus économe, qu'il a meilleur pneu, de faire un ou deux tours de plus sans que ce soit trop dommageable. Là, il sort avant, quoi. À la limite, ce serait Hamilton, on comprendrait, puisqu'Hamilton, il est toujours ricrac, enfin, il peut toujours être ricrac avec ses pneus. Ça peut toujours être un peu critique. Là, quand même, lui, il arrive quand même à rallonger ses relais et il le fait pas. C'est un beau vainqueur.
C'est fou, comme on parle tout de suite, moi, du premier quand c'est pas Vettel, quoi.
C'est clair. Hein.
C'est vrai que ce qui est frustrant, c'est que on saura jamais comment finit cette histoire.
Ah bah non, c'est ça.
C'est terrible, quoi, parce que alors en plus, ils arrivaient parmi les retardataires, ça aurait pu être magnifique, notamment parmi Hamilton. Voilà, donc il y avait vraiment des vraies promesses pour les derniers tours, quoi.
Franchement, Vettel, je pense que Hamilton aurait tué quelqu'un s'il s'était fait prendre un tour comme Alonso. Imagine Hamilton se faire prendre un tour par Button.
Mais ils sont nombreux ceux qui se sont pris un tour à Monaco. Et ils étaient pas tous noirs, donc Non mais j'aime bien les Whis plus. Non mais c'est ça qui est terrible en plus, c'est que maintenant on va tout le temps lui ressortir à Lewis. On va tout le temps lui dire quand il fera un truc, on lui dira ouais mais ça c'est parce que t'es pas noir, tu vois. Ou ça, ah ça c'est parce que t'es noir.
Allez, on va passer dans ce cas au classement. Devinez qui est premier.
Vettel.
Ah, dommage, vous commencez à voir s'écrire son nom dans une boule de cristal.
Vettel avec 120 points devant Hamilton 84 et Button qui fait une belle remontée 81. Au classement constructeur, Red Bull est premier 196, McLaren 165 et Ferrari 97. Autre classement, Vettel à 143 points. Sur 150 possibles.
Lazan.
Hamilton en a 85 et Weber en a 79. Chez les constructeurs, Red Bull a 222 points devant McLaren 161 et Ferrari 93. Allez, on va revenir sur le fait marquant.
Ouais!
Quel était selon vous le fait marquant du Grand Prix d'Espagne 2011? Et je vois que cette stratégie qui n'en était pas une mais qui a fini par en être une n'a pas marché.
Oui, c'est comme celle de Vettel qui a mis les mauvais pneus, quoi.
Puisque les pneus en bois de Pirelli n'ont récolté que 4 votes, 13,79. En deuxième place, ça s'est joué à pas grand chose. 12 votes, le départ PlayStation d'Alonso, 41,38. Et 13 votes, un vote près, c'est le duel Vettel-Hamilton, 44,83%, qui a gagné. Vous étiez 29 à voter. Merci. De même, merci d'avoir voté au top 10. Donc, je commence, puisque ma stratégie n'a pas payé. Et je répète, ce n'était pas une stratégie.
Arrête, Shinji, tu me l'as admis quand on s'est vu. Tu m'as dit, ouais, t'as vu, j'ai bien eu une stratégie et tout. Comment tu fais passer pour un con à la radio et tout. Ouais, vas-y, à vous, Shinji.
Y'a pas besoin de se faire passer.
Salut.
Allô.
Allô. C'était
Allô, Antoine, on t'a perdu. Antoine. Shinji se dit merde putain, faut plus qu'il vienne Antoine, j'en ai deux maintenant sur le dos.
Alors, le fait marquant du Grand Prix de Monaco.
Vas-y, cherche.
C'est qu'il y a plein de choses, il y a plein de choses qui peuvent faire du bon score, c'est ça le point.
Moi, tu penses au score, mais pense avec ton cœur, Shinji, on s'en fout du score.
Alors, regarde, quand je pense avec mon cœur, je finis dernier.
Bah voilà, justement, pense avec ton cœur.
J'ai envie de dire le week-end complètement déglingué d'Hamilton.
Mais là, ça rentre pas.
Ah ouais, c'est pour ça.
Ça rentre pas dans les cases.
Je vais te dire si ça rentre dans les cases ou pas.
Ah, en plus, faut que ça rentre dans les cases.
C'est une stratégie, tu joues sur la longueur du truc pour que ça occupe plus de place que nous, etc. Puis comme ça, tout le monde va se sentir obligé de voter pour toi, ça sera l'air
intéressant. Non, parce que j'ai un truc assez long, moi aussi.
Oh, bon, t'as...
Non, putain. Je me suis rendu compte de ce que c'était. C'est des salauds.
Voilà, j'enlève le complètement. Je mets le week-end déglingué d'Hamilton.
Ça va diviser les gens.
Je sais, mais voilà. Alors, c'était qui?
Antoine.
C'était Antoine, ouais.
C'est la gestion des pneus de Sébastien Vettel. Enfin, surtout la régularité qu'il avait fait dans les temps.
Ah putain, c'est long. La gestion des pneus de Sébastien Vettel. Enfin, surtout la régularité.
Voilà, je mets la
où
gestion
des le... pneus. Où tu dis le relais en pneus tendres de Vettel.
C'est encore plus long.
Qui, rappelons-le, sont des pneus durs.
Mais oui, les, tu mets tendre et entre parenthèses prime, quoi.
Ouais. Ah non, mais...
Et là, Dino, il est en train de chercher un truc bien chiant.
Mais je dois réfléchir, parce que Shinji, il a un petit peu tapé sur Hamilton. Donc, faut que je trouve quelque chose qui pourrait m'amener les voix des pros Hamilton. Voilà. Moi, je dirais la course amputée de tout suspense.
Pas mal.
Ah, tu veux te faire apprécier des fans de...
de Fernando Alonso.
De Fernando Alonso.
Et aussi de McLaren.
Et aussi de McLaren. Et puis, accessoirement, tous ceux qui vont, ne vont pas se reconnaître dans la proposition de Shinji.
Et tous ceux qui n'ont pas voté pour Vettel en premier.
Voilà.
Donc, quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix de Monaco 2011? Vous aurez le choix entre le week-end déglingué d'Hamilton. Non, non, Alonso, il a pas le week-end déglingué. Le relais en fin de temps de Vettel.
C'est sa saison.
Et la course amputée de tout suspense. Donc, ce sera comme d'habitude sur l'article du podcast. Donc, techniquement, vous l'avez déjà vu, le sondage. Eh oui, on va passer au drive-thru.
Le service après-vente de la F1 vous présente les drive-thru of the weekend. Quand les animateurs disent que franchement, c'est pas bien.
Oui, premier drive-thru par rapport à quelque chose que je vous avais annoncé la semaine dernière. La semaine dernière, j'étais super content de vous dire « Ouais, mercredi, il y a le film Senna qui sort !» Et en effet, le film Senna est sorti.
Où ça?
Il est sorti dans 4 salles pour toute la France.
Si vous n'avez pas de voiture et que l'essence coûte trop cher pour vous, vous ne verrez pas ce film avant qu'il ne sorte en DVD.
Ou alors,
ou alors, oui, voilà.
Faut ruser.
Sachant que sur les 4, en fait, il y en a une, c'est Monaco. Donc en fait, il y a que 3 salles en France, dont Le Mans, on se demande pourquoi, Nice et donc Paris. 3.
Bah Le Mans
Non, mais oui,
il y a un film sur un pilote, c'est normal.
Oui, voilà. Alors pourtant, il y a eu quand même une promo autour du film. Et voilà, mercredi, je me dis tiens, je vais regarder dans quelle salle il passe, parce que bon, c'est vrai que on se dit, c'est un documentaire, ça va peut-être passer que dans les salles un peu type art et essai, on passe des documents, justement. On se dit, ouais, on va bien trouver une petite salle. Et là, 4. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, ce que le distributeur a bu, est-ce que la F1 va si mal que ça, que personne ne veut même pas un documentaire sur Senna. Donc voilà, c'était mon premier drive-thru. Et le deuxième, c'est un grand classique.
C'est... La FIA.
Lewis Hamilton.
Non.
Bernie.
Non.
La FIA sur le drapeau rouge.
Non.
Le podium.
Mais c'est, alors, c'est indirectement lié au podium, mais c'est indirectement lié, au drapeau rouge. C'était F1. Puisque le carambolage, il a eu lieu quand? Il a eu lieu.
Pendant la pub.
Pendant la pub. Alors, déjà, moi, quand ils ont lancé la pub, alors qu'il restait moins de 10 tours, je me suis dit, quand même, c'est un peu
tard. On a tout sur les.
Non, mais, oui. Déjà, le simple fait de quand même foutre une page de pub à 10 tours de la fin, sachant qu'un tour c'est une 20, voilà, je veux dire.
Sachant que t'as 3 pilotes en lutte.
Surtout quand t'as en 1 seconde 4, 3 pilotes, voilà. Tu fais pas ça.
Même pas une seconde 4, ils étaient dans la même seconde.
Voilà, et retour de pub, voilà, carambolage, donc on a vu en replay, hein. On reste sur le débat qu'on a eu la semaine dernière. Et puis tu parlais du podium, là encore, on a un podium, c'est quand même remise de trophée et les hymnes et tout ce qui suit, le champagne et tout ça. Et au lieu de ça, on a préféré passer une page de pub avant de mettre Dr House.
Oui, non, mais faut quand même reconnaître aussi que ça avait déjà quand même pas mal débordé sur l'horaire.
Oui, c'est vrai, mais c'est toujours rare.
Et qu'en plus, ils ont été super longs à faire le podium.
Et le truc qui me fait très très peur, est-ce que, Dino, Antoine, vous avez tous les deux vu Dimanche F1
ou seulement oui. Dino,
hein, est-ce que vous avez entendu la petite remarque qu'a fait Margot Laffitte sur le Grand Prix du Canada? Ça a été très rapide.
Oui. Non. Oui. J'ai envie de les tuer.
Ah. Puisque, on peut vous le dire, ceux qui n'auraient pas vu Eurosport, il semblerait que le Grand Prix du Canada va commencer sur TF1.
Et finira.
Et finir sur Eurosport.
Donc, on
ouais,
en profite.
Pareil,
on en profite pour vous annoncer que si c'est le cas, fanf1.com proposera un live de la même façon que pour les qualifications. Pour suivre la fin du Grand Prix.
Et alors, ce qui est génial, c'est que quand il t'annonçait avec un grand sourire, genre c'est génial, En plus, il passe dimanche F1 juste après. Oh ouais, qu'est-ce qu'on a à foutre dans ce cas-là?
On va les tuer. Voilà. Surtout que maintenant, les Grands Prix se jouent dans les 10 derniers tours.
Bah ouais, c'est ça en plus. Donc, en fait, je pense que ça va être 19h-20h sur TF1 et à 20h, ça va basculer sur Eurosport.
Quoique d'un côté, je comprends pas comment ils veulent finir la course au Canada. C'est avec les Bridgestone, ils avaient du mal à avoir assez de pneus. J'ai du mal à comprendre les Pirelli avec les super tendres et les tendres.
Ouais, c'est assez exceptionnel.
Quel type de pneus il y aura au Canada?
Super soft.
Tendre, et... super tendre.
On est d'accord.
Non, mais en fait, c'est ça, c'est TF1, ils ont tout compris. Ils savent très bien que la course va durer qu'une heure. Parce que tout le monde va arrêter, il y aura plus de pneus.
Une demi-heure. Attends, t'imagines les super soft? Bon, alors. Arrête. Ça y est, ils commencent à être, non, en fait, ils sont morts.
Alors, les gars, je viens de sortir des stands et les pneus sont déjà morts. Attends, t'as même pas fait un tour? Bah ouais, justement, je suis au bout de la ligne des stands et les pneus sont déjà morts.
Voilà, c'était mes deux drive, petits drive fous.
Là, on avait 2-3 là. Hein. C'était un paquet, hein. C'était un lot.
Il y avait de l'info plus quand même. Parce que ça, je pense que les gens de TF, enfin, les gens qui n'ont pas Eurosport.
Eh oui, voilà.
L'auraient su, ils auraient fait le dimanche. Oh les salauds.
On va passer au concours.
Oui, le concours. Et cette semaine, attention, ça va faire mal.
On a eu
3 réponses.
D'accord.
Et attention, on a eu 3 réponses différentes. Exceptionnellement, Shinji, cette semaine, je vais même pas te poser
des questions. Bah non, parce que...
Je vais te demander quelle est la bonne réponse. Parce qu'en plus, c'est pas seulement que il y a 3 réponses différentes. On pourrait se dire, oui, d'accord, mais il y en a une qui est bonne, celle que nous a envoyée le... Mais même là, c'est pas sûr. J'explique. Revenons une semaine en arrière. Nous recevions cette question du vainqueur, qui était Globen, qui nous disait quelle est la date la plus précoce dans l'année à laquelle a eu lieu une course sur le circuit de Monaco. Et notre ami Globen, par stratégie, avait cru bon de préciser, évidemment, la précision du circuit de Monaco instille le doute sur le fait que Monaco ait été choisi pour un autre Grand Prix. Donc ça va faire douter les gens, ils vont être moins nombreux à répondre, donc moins de questions à la con, donc plus de chances pour moi de gagner le concours dans 2 Grands Prix. Alors, la réponse qu'il nous avait envoyée, lui, c'était le 7 mai.
Oui. Okay, oui.
Sauf que, on a quelqu'un qui a répondu en disant le 7 mai. On a quelqu'un d'autre qui a répondu en donnant la date la plus précoce, le premier Grand Prix, c'était 1929.
Attends, répète-moi l'intitulé exact de la question.
Quelle est la date la plus précoce dans l'année à laquelle a eu lieu une course sur le circuit de Monaco?
D'accord, donc on a bien la question précoce dans l'année. Non, parce que sinon, voilà, on pourrait dire la toute première, parce que c'est la plus précoce. D'accord.
Voilà, c'est 1929. Sauf que là, il y a un piège. C'est qu'on a un petit malin qui nous a été chercher la date du 2 avril 1934, le Grand Prix de Monaco, 1934, qui n'était pas au calendrier, mais qui est bien la date la plus précoce d'une course ayant eu lieu sur le circuit de Monaco, pour un Grand Prix.
Oui.
Donc la question, j'ai dit, c'est qui choisirons-nous?
Ouais, c'est même pas un petit course de formule, un coup.
Bah, en même temps, ouais, t'as raison, il a pas précisé de Formule 1. Donc techniquement, la plus précoce dans l'année, bah, 34. C'est le 1934. Hein.
Donc on prend 1934?
Bah oui, parce qu'il a raison.
Donc on va féliciter Zilex.
Et bravo, parce que il a même été plus fort que la personne qui a posé la question.
Ouais, c'est ça qui est...
Et puis en plus... Honnêtement, faut aller la chercher, c'est-à-dire faut vraiment regarder Grand Prix par Grand Prix. Là où finalement, avec Stat F1, c'est facile de trouver sur les années F1, mais sur les années d'avant, faut vraiment repérer les dates des différents Grands Prix. Et donc Zilex nous propose pour le Grand Prix, le prochain Grand Prix du Canada, nous propose cette question. Lors de la grève des pilotes de 1982, Gilles Villeneuve a fait valoir un autre de ses talents auprès de ses compères. Lequel? Donc nous allons quand même remercier les deux autres participants. Hein, Maël et surtout Steve qui participe pour la première fois, je crois, et qui est un petit peu tombé sur la question piège. Donc voilà, pour répondre, hein, vous commencez à connaître le principe. Hein. Soit vous répondez via le formulaire de contact du site, rubrique en plus, vous choisissez contactez-nous et vous définissez bien comme destinataire le SAV de la F1, soit plus directement, vous nous envoyez un mail savf1@yahoo.fr. Voilà. Vous n'oubliez pas de nous poser donc une question sur le Grand Prix suivant. Donc là, ce sera le Grand Prix d'Europe. Hein, après le Grand Prix du Canada, ce sera le Grand Prix d'Europe. Et donc, de nous envoyer la réponse en réfléchissant bien à votre réponse.
Et en réfléchissant bien à la question et à l'intitulé de la question.
À pas vous faire avoir dans un piège qui visait à avoir les autres.
Et donc on va passer au Grand Prix du Canada.
Oui, ah.
Et Antoine, c'est à toi.
Ah. Ah. Cette fois-ci, j'ai choisi de trouver cette mauvaise raison, puisque j'avais cherché cette bonne raison pour le Grand Prix de Chine.
Moi, j'aime bien et quand c'est méchant.
Je les ai trouvés difficilement, mais je les ai trouvés.
Ah ouais.
Alors, bon, déjà, première raison, si vous avez peur en avion, là, c'est trop tard pour y aller en bateau. Hein. Vous ne pourrez pas y aller, de 1.
Être crack.
Ensuite, donc en rapport avec ton Drive Frog, Shinji, si vous y allez, vous allez louper le JT de 20h en France. Et là, c'est le drame.
Ah, celui-là, là, est excellent.
Ah oui. Là, c'est vraiment le drame. Donc, si vous êtes étudiant ou tout ça, c'est la période des parcelles ou du bac, comme moi, malheureusement. Donc, vous êtes dans la merde, si vous y allez, vraiment. Ensuite, bon, la course, elle va durer 20 minutes, grâce à Pirelli qui apporte des pneus super tendres et tendres, alors que les Bridgestone tenaient déjà 3 tours. Donc, ça fait quand même cher le trajet pour 20 minutes de course. Ensuite, donc les Lotus Renault vont pas courir, donc si vous voulez supporter un truc qui est à peu près français, c'est mort.
C'est vrai.
Parce qu'on rappelle que les Lotus Renault pourront peut-être pas courir parce que leur livrée, elle rappelle les cigarettes
du vrai.
PS.
On n'a pas eu de nouvelles de ce truc, peut-être que...
J'attends de voir.
On va peut-être avoir une bonne ou une mauvaise surprise.
Ah, ça justifierait les résultats pourris d'Elfeld. Ensuite, donc, on a une première... C'est pour la première fois qu'on va avoir une double utilisation du DRS. Alors, pour comprendre les dépassements, ça fera... Bon, alors, qui a dépassé qui, là? Il y en a eu 142, en 20 minutes en plus, hein, vu que les pneus vont pas tenir très longtemps.
Voilà.
Ça va être compliqué. Et dernière raison, c'est que si vous vous paumez pour comprendre un Canadien, bon courage.
Ça, c'est dégueulasse. Mais tellement vrai.
Auprès de tous les Canadiens.
Allez, on va passer au prono. Alors, qui vous voyez au Canada, à Montréal?
Jenson Button.
Je dirais aussi Button, même si je pense que ce week-end sera le grand week-end de Paul Embry.
Oui, je pense qu'il va pleurer.
Ça va être la star du week-end. Et toi, Dino, alors, si tu vas nous sortir quoi cette
Alors là, eh ben, je vais faire ça parce que comme c'est pas forcément gagné pour Vettel justement sur ce circuit-là, je vais prendre le risque. Je vais dire Vettel. Voilà, d'accord.
Il y a qu'une cote de 4 points. Moi, je dis c'est celui qui court le plus vite à pied qui finira la course en premier.
Ah oh, bah c'est Button alors.
Bah c'est Button.
Il y a un quoi qui est différent.
Parce que Paul Embry, c'est pas gagné.
Il y a une différence entre le marathon de 40 km et en faire 300.
Allez, sur ce, on va finir l'émission.
Oui.
Merci Antoine.
Mais de rien, ça a été un plaisir, encore une fois.
T'es le premier à être venu deux fois. Tu rentres dans l'histoire.
Trois fois.
Oui, en plus, trois fois en comptant l'émission Senna Ratzenberger.
Sur ce, on vous remercie de nous avoir écoutés. On vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, comme d'habitude. Ouais. Allez, sur ce, n'oubliez pas. La F1 sur Internet, c'est sur FanF1, comme d'habitude.
Et d'ailleurs, on peut tirer sérieusement un gros chapeau à toute l'équipe. Voilà, il y a vraiment un gros boulot qui est fait en coulisses, vous êtes de plus en plus à nous suivre et ça nous fait vraiment plaisir. Mais il faut rendre hommage à tous ceux qui travaillent derrière, qui donnent parfois même ne serait-ce qu'un tout petit peu de leur temps pour participer au site, le faire vivre, vous proposer des news, vous proposer des regards différents, etc. Donc voilà, bravo à toute l'équipe derrière, c'est super important de penser à eux et n'hésitez pas à leur dire... Et éviter de leur parfois cracher des insultes quand ils font un article ou quoi que ce soit. Voilà. Parce que nous ne sommes pas noirs.
C'est bien. Moi, pour avoir été l'année dernière, il y a vraiment une différence. Quoi.
Allez, sur ce, ciao à tous. Et comme d'habitude, on vous laisse sur ces quelques mots de poésie.
Oui. Et tu fais bien de dire quelques mots, Shinji, puisqu'il y aura deux mots. Il y aura deux proverbes.
Au revoir.
Parce que je voulais en faire un, puis je me suis dit, ah non, on va se mettre à dos une partie de notre auditorat. Donc je fais un peu mon faux cul, je vais essayer de flatter les deux masses. Voilà. Parce que je suis tombé, bien évidemment, sur des proverbes africains, hein, puisque vous avez découvert tous que Lewis est noir. donc voilà, j'ai voulu rendre hommage à ses origines africaines. Déjà, ils avaient prédit un peu ce Grand Prix de Monaco dans leur philosophie, avec deux points de vue différents. Donc, je vous laisse, chers auditeurs, détracteurs ou pro Hamilton, trouver le proverbe qui vous plaira le plus. J'ai un premier proverbe qui est un proverbe zambien qui dit « Avoir de longues plumes ne veut pas dire voler haut. Et un deuxième proverbe, qui est gabonais celui-ci, et qui dit tout simplement « Les gens généreux s'exposent toujours au mauvais traitement ».